Et bonjour! Bonjour tout le monde, bonjour, bienvenue! Comment ça va? Ça roule les copains? Namasté, bonjour. Attends, j'aurais juste faire un petit réglage. Voilà, comme ça c'est mieux. J'étais flou. J'étais flou. Je suis moins flou. Ça va les copains, bienvenue pour ce petit stream tranquille, détente à l'occasion des questions au gouvernement à l'Assemblée qui commence à 14h le mercredi. On va retrouver notre Assemblée nationale chérie et notre gouvernement chéri. Ça dépend, pas pour tout le monde. Voilà quoi. Bonjour Jean, vas-tu lire le livre La Meute ou pour toi, qui a le nez dans la politique, ça va rien t'apprendre? Ça va rien m'apprendre. C'est un bouquin qui vient d'être publié par deux journalistes sur le fonctionnement interne de la France insoumise et notamment l'ambiance qui y règne et l'autorité, pour ne pas dire l'autoritarisme de Jean-Luc Mélenchon. On n'apprend pas grand-chose, enfin on n'apprend pas. Si, il y a des éléments qu'on n'avait pas, mais la thèse du bouquin n'est pas une thèse qui est nouvelle pour les gens qui, comme moi, observent l'actualité politique. Voilà, donc. Petite question, est-ce que ta table basse est toujours en vente? Oui. Ma table basse est toujours en vente. Je vends une table basse, mesdames et messieurs. Alors attends. Off, elle est où mon annonce? Je vends une table basse. J'avais fait une story pour en parler. Voilà, je vends une table basse, comment vous dire, elle est magnifique, hein. Voilà, je vends cette table basse, 140 balles, parce que, en fait, elle rentre pas chez moi, donc elle est encore dans son carton. Donc c'est pour ça que les photos, c'est pas les photos de chez moi, hein. C'est les photos du site internet. Et donc voilà, quoi. Par contre, faut venir la chercher sur place, hein. C'est pas... Je fais pas de livraison. Je vous mets le lien dans le chat. S'il y a un acheteur, hein, s'il y a un acheteur, vous avez le lien de l'annonce. Tu livres à Bordeaux? Non. Voilà. C'est seulement si vous êtes acheteur. Hein. M'emmerdez pas, m'envoyez pas des messages si vous voulez pas acheter la table. Hein. S'il vous plaît. Laissez-moi tranquille. Que penses-tu de l'opposition de Mathilde Panot disant que le livre n'aborde pas les idées? Ah bah non, le livre n'apporte pas les idées, mais il a pas vocation à aborder les idées. Hein. Moi, je trouve pertinent de se questionner sur la manière dont on porte le projet politique indépendamment du fond. Oui, non, mais je viens. Eh, mais vous savez, on est un pays libre, hein. Je veux dire, vous avez le droit d'écrire des bouquins sur le fonctionnement des partis politiques sans aborder le fond du projet porté par les partis politiques, c'est pas obligatoire. Hein. Il y a d'autres bouquins qui parlent du fond. Tiens, regarde, regarde, je vais te donner un autre exemple. Hop! Manuel Cervera Marzal, Le populisme de gauche, sociologie de la France insoumise. Ce bouquin-là, ce pavé, il est sorti en 2021. C'est un livre qui parle de la France insoumise, mais qui s'attarde sur la sociologie des insoumis. Pas sur le fond de leurs idées. Bon, bah voilà, c'est un autre genre de bouquin. Il parle aussi de stratégie et tout. Je ne dis pas qu'il aborde pas du tout le fond, et bien sûr que non, mais. C'est un bouquin qui s'appelle Sociologie de la France Insoumise. C'est un bouquin qui fait la sociologie de la France Insoumise. Est-ce que tu vends des fringues sur Vinted? Non. J'ai pas compris le vote à la proportionnelle. Est-ce que tu pourrais expliquer, s'il te plaît? Ouais, je peux t'expliquer. En fait, on parle des élections législatives, donc les élections qui servent à élire les 577 députés qui composent l'Assemblée nationale. Ok? En ce moment, actuellement, on est sous un mode de scrutin qui s'appelle le scrutin majoritaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on prend l'Assemblée nationale et on divise la France en 577 petits territoires qu'on appelle des circonscriptions. Et dans chaque circonscription, on élit un ou une députée différent. Et c'est comme ça que les 577 députés venant de tout le pays arrivent à l'Assemblée nationale. Ça, c'est ce qu'on appelle le scrutin majoritaire. Il y a un autre mode de scrutin qui consiste à faire voter les gens dans une seule grande circonscription qui s'appelle la France. Et ça, c'est ce qu'on appelle la proportionnelle intégrale. Et on répartit les sièges de l'Assemblée à la proportion des votes obtenus par chacun des partis politiques. Ce qu'on appelle le vote par proportionnel. Mais ce vote à la proportionnelle, tu le connais déjà. Ben oui, parce que c'est le mode de scrutin qu'on utilise pour les conseils municipaux, pour les conseils régionaux, pour le Parlement européen. Donc en fait, vous le connaissez déjà, ce qu'on appelle les scrutins de liste. Vous savez, quand on vote pour une liste, eh ben, la liste, elle obtient un nombre de sièges proportionnel au nombre de voix qu'elle a eues. Voilà la vulgarisation rapide de ce que c'est que la proportionnelle. On aura l'occasion d'en reparler, rassure-toi, de la proportionnelle, on va en reparler. On va en reparler. J'ai pas lu le livre, mais j'ai pas compris l'extrait qui explique que la France insoumise est une structure juridique composée de seulement 3 personnes. À quoi adhèrent les insoumis du coup? Au final, ils n'ont juridiquement aucun droit. Mais il n'y a pas d'adhérents à la France insoumise. À mon avis, tu te trompes. La question que tu te poses est une bonne question, mais la réponse est très simple. Il n'y a pas d'adhésion à la France insoumise. Voilà. Donc c'est pour ça que tu peux avoir effectivement seulement 3 personnes juridiques, en 3 personnes dans la structure déposée en préfecture. On adhère à Jean-Luc. On n'adhère pas à Jean-Luc. Bah oui, bah si. Ça changerait quoi dans la composition de l'Assemblée? La proportionnelle, alors c'est difficile de faire des projections parce que c'est un peu une arnaque intellectuelle de projeter les résultats d'une élection au scrutin majoritaire sur des élections au scrutin proportionnel. Pourquoi? Parce que les comportements électoraux ne sont pas les mêmes de la part des électeurs et de la part des partis politiques. Les partis politiques, dès lors qu'ils font face à un scrutin majoritaire, ils ont intérêt à se comporter d'une certaine manière, de présenter certains candidats, de faire des alliances, par exemple, qui n'existent pas dans le scrutin proportionnel. Pareil, les électeurs ne votent pas de la même manière quand c'est un scrutin majoritaire ou quand c'est un scrutin proportionnel. Ça dépend s'il y a un tour ou 2 tours, par exemple. Ça dépend s'il y a des alliances ou pas d'alliances. Tout ce que je viens de t'expliquer, c'est juste que, attention, quand on fait des mathématiques statistiques, il y a des choses qu'on a le droit de faire, et il y a des projections qui sont un peu des arnaques intellectuelles, il faut faire attention. On peut toujours s'amuser à faire des projections, mais attention, parce qu'on projette un truc pas réel sur une réalité pas réelle. Ceci étant dit, tu peux aller sur le site qui s'appelle... Merde, comment il s'appelle? Contexte. Contexte proportionnel. Boum. Le site internet Contexte a fait des projections justement de ce que donnerait l'Assemblée nationale en fonction des modes de proportionnel qui existent ou pas. Donc si on fait une proportionnelle nationale sur le modèle des européennes et qu'on prend le premier tour des législatives de 2024, on aurait ce type d'assemblée. Si on reprend la projection des projections de voix aux européennes 2024, on aurait ça. Par alliance, par parti, etc. Bref. T'as compris. Ce sont des hypothèses. Voilà, c'est ça. Ce sont des hypothèses. Bon, donc je vous invite, je vous mets le lien. Je vous mets le lien dans le chat. Si vous voulez jouer, si vous voulez lire cet article, je vous invite à le lire. Là, vous avez le lien. Si vous voulez jouer avec, pour regarder à quoi ça ressemblerait, etc., par département, là par exemple, il faut une projection par département. C'est intéressant parce que c'est un des modèles qui est proposé aujourd'hui. Tu peux faire des proportionnelles par département, des proportionnelles par région. Tu peux faire. Attendez, excusez-moi, je me remets au milieu. Hop. Voilà. Si on prend les résultats des présidentielles, ça marche mieux, non? Ça dépend, parce que c'est pas sûr que chaque candidat à la présidentielle ait une liste aux élections législatives. J'ai l'impression que ça changerait pas grand-chose à la situation actuelle. Ah bah, c'est-à-dire que il faut bien que vous gardiez en tête un truc important, c'est que un mode de scrutin, c'est pas une baguette magique, hein. Ça l'a jamais été et ça le sera jamais. Si les Français décident, si les Français sont divisés entre trois blocs, si les Français sont divisés entre trois blocs, un bloc de gauche, un bloc central, un bloc d'extrême droite, bah tu peux pas en faire grand-chose. C'est pas en changeant le mode de scrutin que tu vas empêcher les Français d'élire des députés qui représentent ces clivages-là. C'est quoi les arguments pour et contre la proportionnelle et la circonscription? Ah, je peux pas te répondre là en une phrase. C'est un débat qui existe depuis un siècle. C'est comme si tu me demandais c'est quoi les grands arguments de la droite et de la gauche. Mais frère, moi je veux bien faire des efforts, mais je peux pas. C'est trop long, trop complexe. Comment assurer une représentativité des territoires et le lien entre le député et les citoyens en cas de proportionnelle? Eh ben, c'est toute la question. C'est pour ça qu'aujourd'hui, l'un des modèles de proportionnel qui est suggéré et qui est plébiscité par ceux qui défendent la proportionnelle, c'est un mode de scrutin proportionnel par département. Voire même, on peut imaginer, ça existe, un mode mixte. Par exemple, les sénateurs. T'as plus des deux tiers, je crois, des sénateurs qui sont élus à la proportionnelle, dans des départements qui sont les plus peuplés. Et dans les départements les moins peuplés, on continuerait à faire un scrutin majoritaire. C'est possible. L'instabilité parlementaire est potentiellement plus importante avec une proportionnelle. La phrase que tu viens d'écrire, elle a été vraie pendant 70 ans. Elle a même été enseignée à Sciences Po. Elle m'a été enseignée à moi, quand j'étais à la fac. Sauf que je suis désolé de t'annoncer qu'elle n'est plus vraie. Depuis 2022, les choses ont changé, et je suis désolé, mais le scrutin majoritaire n'offre plus les garanties de stabilité qu'on lui prêtait. Est-ce qu'il est possible d'acheter une gourde Baxit sur Internet? Non, c'est uniquement sur place. Et oui, il faut venir dans le public. La proportionnelle au sénatorial, les campagnes sont surreprésentées dans les élections, non? Non, les campagnes ne sont pas surreprésentées dans les élections, les électeurs issus des campagnes sont plus nombreux. Bonjour tout le monde, c'est pas nouveau les QAG 2 jours de suite? Non, ça fait depuis les années 70 qu'il y a des QAG le mardi et le mercredi. La seule exception, ça a été entre 2022 et 2024, où il y avait une séance de QAG le mardi, et ensuite il y a eu une séance de questions au Premier ministre le mercredi, mais qui n'a pas duré très longtemps. Est-ce que c'est vrai que De Gaulle était contre la proportionnelle? Oui, absolument. La Ve République a été bâtie en partie autour du mode de scrutin majoritaire, par peur de répéter les dérives de la Quatrième République. Pourquoi ne pas avoir un parti unique? Vorab, je vois bien que tu essayes de troller, hein, c'est juste pas très très drôle. Mais c'est pas grave, après on peut pas tous être des bons trolleurs. Hein, mais pour financer Baxit, c'est mieux de passer par KixisBankBank, où nos subs aident aussi à financer l'émission. Non, vos subs n'aident pas à financer l'émission. La seule chose qui finance l'émission, c'est KixisBankBank. Si vous voulez supporter Baxit, et je vous en remercie mille fois, il faut le faire. Et c'est par KixisBankBank. Point d'exclamation Baxit dans le chat. Un des arguments pour la proportionnelle entendu, c'est que ça va obliger à anticiper les compromis, mais finalement, vu la situation actuelle, il faudra des compromis proportionnels ou pas. Oui et non, parce que la proportionnelle rend les compromis plus intéressants après l'élection qu'avant l'élection. Autrement dit, le nouveau Front populaire, si on fait une proportionnelle, n'existera plus tel qu'il était aujourd'hui, c'est-à-dire un accord entre les partis avant l'élection. Par contre, donc les partis iront diviser à l'élection, et ensuite, il y aura des accords qui seront faits. C'est ce qui se passe en Allemagne, par exemple. Pourquoi ne pas voter pour des idées que pour des partis. Parce que les idées ne gouvernent pas. Je suis désolé, les idées ne gouvernent pas. Ce qui gouverne, c'est des hommes et des femmes avec des bras et des jambes. L'Allemagne, c'est pas la proportionnelle. Si? Si, si, l'Allemagne, c'est la proportionnelle. Alors, je ne sais plus exactement quel est le mode de proportionnel qui existe en Allemagne. C'est un peu particulier. Les bureaux de KissKissBankBank, ils étaient à côté de chez moi. Ils ont fermé et démonté. Ouais, je sais, KissKissBankBank a disparu. Maintenant, ça a été racheté par Ulule. Et donc, Baxit va bientôt être transféré chez Ulule. J'ai surtout l'impression que la proportionnelle est vue comme un outil contre l'extrême droite, alors que c'est les électeurs qu'il faut convaincre avec de nouvelles idées plutôt qu'un nouveau mode de scrutin. Je suis complètement d'accord avec toi. Complètement. Il y a des pays dans lesquels ça vote à la proportionnelle et qui se sont retrouvés avec l'extrême droite au pouvoir. Le mode de scrutin n'est pas une garantie de barrage. C'est pas vrai. Ça l'a jamais été. Et je suis d'accord avec toi pour dire qu'il faut qu'on arrête de se masturber sur les modes de scrutin et les types de scrutin. C'est pas des baguettes magiques et surtout, c'est pas en changeant les modes de scrutin que vous allez changer les électeurs. Je reviens sur ce que disait Alex Terreur. En soi, on pourrait avoir un groupe de techno apolitique dont le rôle est d'appliquer le programme qui serait soumis au scrutin pour le coup. Ouais, bien sûr, des espèces de robots, quoi. Non, mais dites-le tout de suite si vous voulez une intelligence artificielle. À ce moment-là, on déshumanise la politique, c'est une bonne solution. Comme si le problème, c'était les personnes. Ouais. Sans moi, sans moi. Allez-y, hein, partez devant, mais sans moi. J'ai pas trop suivi l'actualité politique ces derniers temps, mais pourquoi est-ce qu'on parle des modes de scrutin? Parce que le scrutin proportionnel fait l'objet actuellement de consultations par le Premier ministre, qui envisage d'adopter d'ici la fin de l'année une loi pour changer le mode de scrutin. Et bienvenue si vous nous rejoignez, hein. Il est 13h20, on va bientôt suivre ensemble la séance des questions au gouvernement. À 14h. Est-ce que la proportionnelle n'aurait pas comme effet de faire retourner aux urnes des personnes qui ne votaient plus dans les circonscriptions quasi gagnées d'avance? J'ai jamais entendu parler de ça. Alors pareil, hein, dans le genre baguette magique, je vois pas en quoi le changement d'un mode de scrutin va inciter qui que ce soit à arrêter de s'abstenir. On peut vouloir des technocrates sans forcément aller vers l'IA. Non, 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 je fais le lien parce que c'est Elon Musk. Hein. Ce que tu défends là dans mon chat, c'est la vision d'Elon Musk. Hein. C'est celle effectivement des technocrates. On met des technos apolitiques et on leur demande d'appliquer un programme, etc. Et c'est pour ça que je fais le lien avec l'intelligence artificielle parce qu'Elon Musk lui-même est allé encore plus loin dans sa logique en faisant la promotion du fait qu'on pourrait demander à des ordinateurs de gouverner le monde. Pourquoi pas, après tout, demander à des ordinateurs de gouverner? Non, mais si on déteste la politique au point de vouloir la tuer. Bah, allons-y jusqu'au bout. Comme ça, il n'y a plus d'êtres humains, il n'y a plus de formation politique, il n'y a plus de société civile non plus d'ailleurs, il n'y a plus de rapport de force, il n'y a que des technocrates que l'on suppose être des gens doués d'une capacité à s'extraire eux-mêmes de leurs propres présupposés. Bravo à eux. Je sais pas qui sont ces gens, j'en ai jamais rencontré, mais apparemment ils existent, et on leur demanderait, de manière apolitique, de prendre les bonnes décisions qui s'imposent d'elles-mêmes. Par exemple, baisser la fiscalité sur les entreprises. C'est une bonne idée, c'est la seule idée qui vaut d'ailleurs. C'est sans idéologie, hein. Il paraît que c'est sans idéologie, mais c'est voilà, c'est sérieux, c'est responsable, c'est respectable, c'est une bonne politique. Par contre, augmenter les salaires, ça, c'est pas technocrate. Ça, c'est de l'idéologie. C'est de l'idéologie et c'est du fanatisme même. Donc, il faut pas le faire. Donc, non, mais moi, je les connais, les technocrates, hein, les technocrates en cravate qui prennent des décisions absolument pas politiques. Donc, ouais, non. Pas de politique dans mes décisions politiques. Oui, c'est ça. Pas de politique dans mes décisions politiques. Non, puis il y a un truc qui est bien aussi avec les technocrates. Vous savez ce qui est bien avec les technocrates? C'est qu'ils sont pas responsables. Ah ben non. Un technocrate n'a pas de responsabilité. Un technocrate ne rend pas de compte. Il ne fait qu'appliquer. Donc il n'y a plus de questions au gouvernement. Ah ben non, c'est fini. Ah ben il n'y a plus de gouvernement. Il n'y a plus que des technocrates en costume, là, qui prennent des décisions. Nous, du coup, on va s'engueuler sur les idées. Mais par contre, les gens qui prennent les décisions, ah ben non. Il n'y a plus d'audition, il n'y a plus de mise en cause personnelle, il n'y a plus d'interview à la télévision. Ça sert à rien d'interviewer un technocrate. Pourquoi vous voulez interviewer un technocrate? Vous lui posez quoi comme question? Il ne fait qu'appliquer. Il n'est pas politique. Donc, bon. Les politiciens ne rendent pas de compte non plus. Eh bah, ben, regarde, ça s'appelle l'Assemblée nationale, ça commence dans 35 minutes. C'est un exemple. Et ce n'est qu'un exemple. J'aimais beaucoup la formule de Chapoutot qui disait qu'on était face à une institutionnalisation de l'absence de responsabilité. Oui, absolument, c'est une des thèses qui est défendue par l'historien Johann Chapoutot sur l'espèce de balkanisation de l'État en plein de petites agences où personne n'est responsable de rien. Ouais. C'est peut-être une question bête, mais qu'est-ce que c'est qu'un technocrate? Un technocrate, c'est un spécialiste de la mécanique administrative. On va dire ça comme ça. C'est un peu comme un bureaucrate. Sauf qu'un technocrate, il a une expertise technique. En fait, c'est l'inverse d'un politique. Un politique, il est là pour appliquer des idées, il est là pour penser le monde, il est là pour avoir une lecture de l'actualité, il est là pour proposer un chemin et pour embarquer avec lui des réformes, des changements, des évolutions, etc., dans le but du bien commun, en tout cas tel qu'il est pensé par lui et par ses électeurs. Un technocrate est une personne qui n'est là que pour appliquer les décisions. Elisabeth Borne, c'est une technocrate. C'est une ancienne technocrate qui maintenant fait de la politique, hein, Elisabeth Borne. Je te rappelle quand même qu'elle a été première ministre et qu'elle est ministre de l'Éducation nationale actuellement. C'est Lucie Castet? Ouais, Lucie Castet. Alors, Lucie Castet, c'est plus le cas, mais elle avait une double casquette parce qu'elle était technocrate, effectivement, lorsqu'elle était la directrice financière de la ville de Paris. C'était une fonctionnaire de la ville de Paris qui dirigeait les aspects financiers, mais sous la responsabilité des élus parisiens qui prenaient les décisions budgétaires. Mais à côté de ça, elle avait aussi une casquette de militante parce que Lucie Castet, elle était cofondatrice du collectif Nos Services Publics. Donc, Lucie Castet, c'était une technocrate qui faisait de la politique à côté. Je crois que je préférerais des citoyens tirés au sort façon jury d'assises que des technocrates. Moi, je ne suis pas d'accord pour le tirage au sort pour des décisions et pour des délibérations qui impliquent la vie des gens. Je veux pas tirer au sort, je veux pas tirer à pile ou face la politique. Pourquoi avoir des représentants qui prennent la décision à la place de tout le monde? C'est pas à la place de tout le monde, c'est au nom de tout le monde. C'est pas la même chose. Tu confonds. C'est ça le mécanisme de représentation. Est-ce que tu as vu la sanction de l'Assemblée nationale pour Kerbrat et Engrand? Oui, j'ai vu passer ça ce matin. L'Assemblée nationale a décidé de sanctionner deux députés, une députée du Rassemblement national et un député de la France insoumise. Le député de la France insoumise, c'est Monsieur Kerbrat, qui va être sanctionné parce qu'il a acheté de la drogue avec son indemnité parlementaire, si j'ai bien compris. Et Madame Engrand, c'est une députée du Rassemblement national qui, elle, a fait passer des dépenses personnelles sur ses indemnités parlementaires. Voilà. C'est ce que j'ai compris ce matin. Mais alors, j'ai pas vu quelle était la sanction qui avait été décidée. J'ai pas vu. Pour garder ou laver son chien. Ça me dit quelque chose, ça me dit quelque chose. C'est l'histoire des applis de rencontre. Ouais. Ouais. Pourquoi c'est l'Assemblée nationale qui sanctionne et pas la justice? Ah là, l'Assemblée nationale, elle ne sanctionne que dans le cadre de. J'ai pas dit que la justice n'allait pas sanctionner de son côté, mais tu sais qu'il y a une immunité parlementaire qui empêche la justice de sanctionner les députés en cours de mandat. Sauf si l'immunité est levée par décision du bureau de l'Assemblée. Des dépenses personnelles, de quelle envergure? C'est 30 euros une fois, c'est pas pareil que des milliers. Je sais pas, j'ai pas le détail. J'ai pas le détail. C'est ridicule l'immunité parlementaire. Ah, attention, 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 l'immunité parlementaire, c'est important quand même. C'est important que les députés soient à l'abri des poursuites de la justice. C'est important que les députés ne soient pas menacés en permanence d'actions judiciaires qui viendraient faire une forme de contrôle de l'action des députés par le pouvoir judiciaire. Faut faire extrêmement attention à ça. Hein. Sinon, c'est très facile de faire taire un député. C'est très facile de faire payer un député des positions politiques. Non, faut faire vraiment attention à. Je suis. Ouais. Donc, ouais, non, non, faut se méfier quand même un peu de ça. Et encore une fois, je vous dis, j'ai pas le détail des décisions qui ont été prises contre les deux députés. Je vais regarder si je trouve ça. Alors, je vais vous lire un article. Tiens, je vais le mettre là. Mauvais usage des frais de mandat, le bureau de l'Assemblée nationale propose d'exclure 15 jours les députés Andy Kerbrat et Christine Engrand. D'accord, donc c'est 15 jours d'exclusion. La sanction la plus élevée dans l'arsenal parlementaire doit être validée mercredi après-midi par un vote des députés dans l'hémicycle. Les deux élus seraient alors privés de la moitié de leur indemnité parlementaire pendant 2 mois. Le bureau de l'Assemblée nationale a proposé mercredi 7 mai d'exclure 2 semaines le député Andy Kerbrat et Christine Engrand et de suspendre la moitié de leur indemnité parlementaire pendant 2 mois, a appris France Info de sources parlementaires confirmant des informations du Figaro. La décision a été prise à l'unanimité, y compris par les députés de la France Insoumise qui composent cette instance. Ah ok, donc les Insoumis ont voté pour la sanction d'un des leurs hein, quand même. C'est intéressant. Il s'agit de la sanction la plus élevée à la disposition des parlementaires du bureau. Elle doit être validée à main levée dans l'hémicycle mercredi après-midi. Cette décision envoie un message fort et ferme de l'ensemble des groupes politiques quant au devoir d'exemplarité qui incombe aux députés, s'est félicitée Yaël Braun-Pivet, présidente de l'Assemblée nationale, dans un communiqué. Aucun usage détourné des moyens qui leur sont alloués pour l'exercice de leur mandat au service des Français ne saurait être toléré, évoquant des cas isolés. La responsable estime qu'ils ternissent l'image de la représentation nationale. Andy Kerbrat a été interpellé en octobre 2024, pris en flagrant délit d'achat de drogue dans le 18e arrondissement de Paris. Désormais en arrêt maladie, le député LFI a confié se débattre avec une grave addiction. Il est reproché à l'élu de Loire-Atlantique d'avoir utilisé son compte « avance de frais de mandat » pour financer sa consommation de drogue, ce qu'il conteste, tout en admettant avoir fait n'importe quoi. Ok, donc il y a une contestation quand même de la part de Kerbrat sur le fait qu'il a utilisé l'argent de l'Assemblée nationale pour acheter de la drogue. En tout cas, il n'a pas nié avoir acheté de la drogue, il a été pris en flagrant délit. La déontologue de l'Assemblée nationale avait constaté un mésusage des frais de mandat et saisi le bureau de l'Assemblée. Andy Kerbrat a remboursé de sa propre initiative 95% des dépenses indûment imputées à son AFM entre juin 2022 et novembre 2024. Christine Engrand, exclue du RN en mars. Christine Engrand a été épinglée en septembre 2024 par un article du site Mediapart. Le média d'investigation a révélé que la députée du Pas-de-Calais avait notamment pioché dans son AFM pour régler la pension de ses deux chiens, un abonnement à un site de rencontre et des frais d'obsèques. J'adore parce que ça n'a rien à voir. Il y a le chien, il y a le cul et il y a la mort. D'accord, ok. Elle a reconnu une maladresse et des erreurs. Dans la foulée, elle a été suspendue pour une durée de 6 mois du groupe du Rassemblement National à l'Assemblée. En mars, elle a été exclue définitivement du RN. Selon le rapport du déontologue, la députée a remboursé les sommes concernées. Bon, elle a remboursé quand même. Bon, donc, on a affaire à deux députés qui reconnaissent avoir fait des conneries. Hop. Qui ont remboursé les conneries et qui vont se faire exclure pendant 15 jours de l'Assemblée nationale et qui vont se faire couper la moitié de leur indemnité parlementaire pendant 2 mois. L'extrême droite se fout du contribuable, épisode 10 000. Oui, enfin, la France insoumise aussi à ce titre-là. Parce que là, voilà, on a quand même acheté de la drogue avec l'argent des Français. Les frais d'obsèques, par contre, c'est ultra cher, ça m'avait choqué. Ouais, il paraît que c'est très très cher, les frais d'obsèques. Ça a beaucoup augmenté. Ils achètent quoi, les Français, à part de la drogue? C'est vrai, ça, vous l'achetez comment, vous, votre drogue, à vous? Vous l'achetez avec la carte bleue de la boîte? Ou avec votre carte bleue perso? Non, non, la drogue, c'est avec son argent à soi qu'on l'achète. Hein. Comment... Eh, déconnez pas, c'est un truc à se faire contrôler. Vous allez vous faire contrôler. Vous saurez pas quoi expliquer au contrôleur. Ticket resto. Il prend que l'échec, mon dealer. On achète uniquement des écrans plats. Du coup, selon toi, ça va porter à quoi les QAG? Ah, mais c'est une question que je vous pose à vous, chers amis. Selon vous, quels vont être les sujets qui vont être abordés aujourd'hui lors de la séance des questions d'actualité au gouvernement à l'Assemblée nationale? Si vous étiez député, vous, quelles questions vous poseriez au gouvernement aujourd'hui sur un sujet d'actualité? L'Inde et le Pakistan, c'est une bonne idée, ouais. La montée des tensions entre l'Inde et le Pakistan, maintenant qu'on sait que l'Inde a acheté des rafales. Gaza, ouais, Israël et Gaza, bien sûr, ça a du sens. Nouveau chancelier allemand. Je vois pas très bien ce que le gouvernement peut avoir à dire là-dessus, hein. Ma drogue, c'est gratuit, il suffit de me poser devant mon écran les mardis et les mercredis devant Twitch. Eh, l'Assemblée nationale, c'est une drogue, finalement. Le référendum, peut-être, ouais. La proportionnelle. Le trailer de GTA 6, bien sûr, bien sûr, bien sûr, très important. T'as parlé un peu du conflit Inde-Pakistan ou pas? Non, non, j'ai pas parlé du conflit Inde-Pakistan parce que moi, je suis comme toi, j'y connais pas grand-chose. J'ai lu des articles qui disent qu'il y a une remontée des tensions entre les deux pays qui sont adversaires depuis longtemps, et ça on le sait. Il y a eu des frappes qui ont été menées au Pakistan, et on sait aussi que l'Inde va acheter des avions Rafale. Donc l'Inde et la France deviennent partenaires, quoi. Militairement. Ah, tiens, d'ailleurs, attends, il faut que je check ça. Hop, hop. Hop, ça c'est bon la vidéo. Oups. Incroyable. Le Pakistan a abattu un Rafale? L'Inde possède des Rafales depuis plusieurs années. Ah oui, c'est ça, ils en avaient déjà, les Indiens, des Rafales. Je me souviens bien qu'ils en avaient déjà, c'était à l'époque de Jean-Yves Le Drian. Et là, ils vont en racheter davantage, par contre. Est-ce que si le pape élu est français, ça pourrait jouer sur quelque chose, sur le gouvernement français? Faire levier pour quoi que ce soit? Non, si le pape est français, de nationalité, disons que c'est de l'influence culturelle. C'est du soft power, si tu veux. Mais c'est pas parce que le pape est français qu'il va défendre la France. Et a fortiori, le gouvernement français. L'Église, pour l'instant, s'est retirée beaucoup dans le domaine religieux. Donc, bon, diplomatiquement, ça peut toujours être un coup de pouce éventuellement pour la France, mais ça veut pas dire que c'est un pote, hein. C'est pas parce qu'il est de nationalité française, le pape, que ça devient mécaniquement un copain de tous les gouvernements français. Ouais, il défend sa chapelle, le mec, hein, il a raison. Enfin, c'est pas un agent de l'État français, certainement pas. Est-ce que le Vatican pourrait acheter des rafales? Bah, s'il a du goût, oui. Le Vatican pourrait faire un effort et acheter quelques rafales. Est-ce que tu penses qu'ils vont poser une question à Borne par rapport à Wauquiez qui coupe les aides régionales à l'université Lyon 2? Peut-être. Mais qu'est-ce que tu veux que Borne réponde si c'est la décision qui est prise par le conseil régional? Et en plus, Elisabeth Borne n'est pas ministre de l'enseignement supérieur. T'es sûr de ça? Si, 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 si. Elisabeth Borne, elle est ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. Elle a un ministre délégué, certainement. Est-ce qu'il y aura une question sur la proportionnelle? Alors, il y en a déjà eu une hier de questions sur la proportionnelle. On verra cet après-midi s'il y en a une ou pas. Est-ce que Wauquiez a le droit de couper les finances d'une université? Bah, si c'est des subventions qui sont votées par le conseil régional peut décider d'arrêter de subventionner une université, oui, il a le droit. Sauf si c'est des compétences obligatoires. Mais si c'est pas de la compétence obligatoire, pas de raison, hein. L'enseignement supérieur et primaire secondaire, ce sont pas des ministères séparés. Ça dépend des gouvernements. Ça dépend du gouvernement, il n'y a pas de règle. Il y a des gouvernements qui lient les deux, il y a des gouvernements qui séparent les deux. Est-ce qu'il y aura une question sur la suppression de la Légion d'honneur de Sarkozy? Non. Non, pour la simple et bonne raison que ça ne regarde pas le gouvernement, c'est une décision du président de la République, qui est le président de l'ordre de la Légion d'honneur. La justice a été saisie par des associations pour que la décoration soit retirée à Nicolas Sarkozy. Comment se crée une commission d'enquête parlementaire? Par décision du bureau. Et ensuite, il y a ce qu'on appelle un droit de tirage pour les groupes d'opposition. Chaque année, chaque groupe d'opposition a le droit de déclencher une commission d'enquête parlementaire. Voilà. Est-ce qu'il y a des règles en matière de ministère où un Premier ministre peut décider de faire ce qu'il veut comme découpage de responsabilité? Un Premier ministre peut décider de faire ce qu'il veut comme découpage de responsabilité. Si vous voulez créer un ministère de l'Intérieur et de la Santé, vous avez le droit. Si vous voulez créer un ministère du Transport et de l'Éducation nationale, vous avez le droit. Peut-être des questions sur la réforme de l'audiovisuel public qui revient. Ouais, peut-être, peut-être. Qu'est-ce que tu penses de la meute? Mais on en parlait un petit peu tout à l'heure, moi j'en pense rien. Déjà, j'ai pas encore lu le bouquin, mais par ailleurs, de ce que j'en ai lu et entendu, on n'apprend pas grand-chose qu'on ne sache pas déjà sur la France insoumise. Il y a peut-être des anecdotes supplémentaires, mais tout ça va dans la même direction et c'est une direction qu'on connaissait déjà. Caractère très vertical de la France insoumise, le phénomène de cour autour de Jean-Luc Mélenchon. Oui. Bah, oui, non mais oui. On savait, hein, mais. Je crois que dans le bouquin, il y a aussi des révélations sur bah justement le phénomène de meute, notamment sur Internet, hein, des militants insoumis, ceux qu'on appelle affectueusement les zinzins soumis. Et le phénomène de meute et le phénomène de harcèlement en ligne, je crois que ça fait partie du bouquin, mais encore une fois, je ne l'ai pas lu le bouquin, donc. C'est plutôt des allégations de harcèlement. Ouais, bien sûr, mais c'est. Ça aussi, c'est connu. Enfin, je suis désolé, la France Insoumise a un problème de harcèlement en ligne. Hein. C'est vieux comme le monde, je me souviens, j'en avais discuté avec Mathilde Panot. Il y a longtemps. En 2022. Quand on l'a reçue sur Backseat et tout, j'avais papoté avec elle, je lui avais dit, mais franchement, enfin, tu te rends compte quand même que la présence en ligne de la France Insoumise pose un problème. Elle m'a dit, ouais, je sais. Mais bon, c'est des militants, il faut bien qu'on. Faut bien qu'on continue à bosser avec eux. Bon. Est-ce que toi qui viens d'Internet, tu es surpris de ce phénomène sur Internet? Ben non, mais c'est tous les partis font pas comme ça, tu vois. Tous les partis politiques n'ont pas la même culture militante. C'est une question de culture militante, tout simplement. L'extrême gauche a ce problème dans pas mal de pays, j'ai l'impression. Oui, c'est ce qu'on appelle le gauchisme. C'est un truc des années 60 où effectivement, t'as un caractère très sectaire, un fonctionnement en vase clos, des gens qui parlent le même jargon et qui se comprennent entre eux, avec leur figure d'autorité en interne. Tu retrouvais ça chez les maoïstes, par exemple. Il y avait un super documentaire qui s'appelait Les années Mao, qui racontait bien comment les jeunes français maoïstes, ils étaient complètement bornés. J'en avais parlé avec Annette Wieworka, qui était elle-même une ancienne maoïste, qui m'avait dit, on a quand même raconté beaucoup de conneries, hein, à l'époque. Mais oui, c'est très excluant, quoi. Sauf que les militants insoumis y harcèlent des fachos et des harceleurs quand ceux des autres partis harcèlent des femmes, des noirs, des juifs, des musulmans, etc. Oh, c'est une très jolie manière de voir le caractère un peu chevaleresque, finalement, du harcèlement des insoumis. C'est mignon de voir les choses comme ça. Mais bon, ayant moi-même été victime du harcèlement de certains insoumis, je suis désolé, je vais pas pouvoir aller dans ta direction. Mais continue à y aller si tu veux. Il y a le bon harceleur et le mauvais harceleur. Ouais, c'est aussi ça. Bon. si tu veux. ArcelorMittal. bah tiens, on n'en a pas parlé d'ailleurs dans les sujets qui pourraient être abordés dans les questions au gouvernement, ArcelorMittal. Après, les autres partis mous, c'est aussi qu'ils ont simplement pas de militants. Ou des militants qui harcèlent moins. Tu vois, c'est, les deux sont possibles, hein. Après, ça dépend des élections. Il y a des élections dans lesquelles ils ont plus d'électeurs, par contre. Mais ça dépend des élections. Ma blague a fait rire, elle était éclatée. Non, non, elle était bien, elle était bien. Ça commence dans 13 minutes, mesdames et messieurs, la séance des questions d'actualité au gouvernement à l'Assemblée nationale. À la grande époque du PS, ça harcelait moins. Ah bah c'est pas tout à fait dans la culture militante des socialistes. Hein. Encore que ça dépend, hein, ça dépend. Il a pu y en avoir. Moi-même, quand j'avais 18-19 ans, qu'est-ce que j'étais con? Enfin, j'étais pas con, j'étais un harceleur. Sur Internet, j'étais un militant, j'étais un débile, j'étais un. Si vous voyez les militants qui mettent le logo du parti dans leur tweet name là. Bah, ce genre de débile là, bah voilà, c'était moi. Et j'agressais verbalement des gens sur Internet parce que j'étais persuadé d'avoir raison. Ah, vous m'auriez vu, hein. J'étais péremptoire, j'étais définitif. Non, non, puis j'avais raison, surtout j'avais raison, hein. Oh, puis j'avais vraiment raison d'avoir raison. Un militant sur Internet. Oui, voilà, c'est ça, un militant sur Internet. Enfin, un militant. Un certain type de militant, parce que, je veux dire, il y en a des biens aussi. Hein. Heureusement d'ailleurs qu'il y a des militants qui font un boulot de qualité sur le fond, sincère, etc., avec des méthodes qui sont pas dégueulasses. Tant mieux. C'est quoi l'intérêt concret de poser des questions à l'Assemblée nationale? Ça sert à contrôler l'action du gouvernement. Le gouvernement doit rendre des comptes sur son action ou son inaction devant les représentants du peuple français. C'est comme ça que fonctionnent les démocraties parlementaires. Il n'y a pas que le vote des lois qui se passe à l'Assemblée, il y a aussi des séances de contrôle. Alors il y a plusieurs types de séances de contrôle. Là, ce que vous allez voir, c'est une séance de contrôle qui s'appelle la séance des questions d'actualité au gouvernement. Il y a aussi les questions orales sans débat qui ont lieu avec un seul ministre sur un sujet précis. Il y a les auditions en commission qui existent aussi. Il y a les contrôles sur site qui existent aussi et sur pièce qui existent aussi. Bref, les députés ont tout un panel de possibilités pour contrôler l'action du gouvernement. Mais le contrôle, attention, c'est un contrôle politique. Il peut aussi s'appuyer sur les rapports de la Cour des comptes, il peut s'appuyer sur les rapports des inspections générales, les rapports d'inspection des ministères, etc. Voilà à quoi ça sert la séance des questions d'actualité au gouvernement. C'est un peu comme un entretien hebdomadaire d'évaluation. À part poser des questions gênantes, ils ne peuvent rien faire. Attention, c'est pas parce que là vous ne voyez que des gens poser des questions que le reste du temps les députés ne font rien. Hein. Je vous rappelle que les députés, ils peuvent voter. Bah oui, à la fin des fins, les députés, ils sont là pour voter quand même. Là, c'est une séance de questions, mais c'est sur la base des questions qui sont apportées que les députés continuent leur travail et peuvent éventuellement virer un gouvernement en votant un 49-3. C'est quoi la différence avec la séance du mardi? C'est la même séance. C'est la même séance, à une différence, c'est qu'elle est plus courte, celle du mercredi, parce qu'aujourd'hui, vous n'allez avoir qu'une seule question par groupe. Un député par groupe qui pose une question. Je fais un tour très rapide aux toilettes, je reviens. De retour. Sloubi 8, tout va bien. En parlant de contrôle, est-ce que ça existe un contrôle a posteriori sur les promesses d'élection des gens élus? Ouais, ça existe et ça s'appelle l'élection. Si tu es satisfait d'un politique, tu peux voter pour lui à la prochaine élection, pour lui ou pour son parti. Si tu n'es pas satisfait, tu peux changer de vote. Didadidadoum. Bon, ça va vous sinon en ce moment? Je veux dire, globalement, on est mercredi, il fait beau à l'extérieur et tout. Vous avez remarqué que les audiences sur Twitch en ce moment, c'est un peu bas, hein. J'ai l'impression qu'on galère un petit peu tous. Ah ben non, tiens, il y a Klemovic qui est toujours à 7000. Ben c'est bon, il y a quand même du monde. Et en même temps, le reste de la journée, il n'y a pas grand-chose, hein. C'est spectaculaire. Il fait beau, t'as oublié le nord. Ah, pardon, les habitants du nord, excusez-moi. Je me suis trompé, j'ai dit qu'il faisait beau alors qu'en fait vous habitez dans le nord. Toutes mes confuses. C'est mai en même temps. Ouais, c'est mai, il y a les ponts, les gens sont en vacances. Les gens sont en vacances, ils ont bien raison. Est-ce que ça existe des conséquences dans le droit pour des politiques qui ne tiendraient pas leurs promesses ou qui diraient des mensonges? Non, le mensonge est autorisé en politique et heureusement. Je vous rappelle que si vous créez un délit de mensonge, ça veut dire que vous créez un ministère de la vérité et je vous jure que vous n'avez pas envie de ça. Parce que ça ne va pas être dans votre intérêt, hein, je vous le dis tout de suite. Et par ailleurs, les politiques qui tiennent des promesses, ça c'est un truc sur lequel il va vraiment falloir arrêter de croire qu'un programme politique c'est un code informatique. Ça marche pas comme ça. Le réel est plus complexe. Le réel est subtil. Le réel est difficile. Le réel fait que quand vous êtes élu, vous vous êtes engagé sur des axes prioritaires. Vous vous êtes engagé sur une direction globale. Vous allez vous efforcer de suivre cette direction, mais vous allez avoir affaire à un réel qui va s'imposer face à vous. Attends, il y en a un qui s'énerve parce qu'il a été ban. Baiser vos grands morts, la modération. Oh non! Oh non, c'est mignon. Merci d'avoir pris le temps de d'écrire un message avant ton ban définitif. So long, tu nous manqueras pas. Je te le dis tout de suite, tu vas pas nous manquer. Mais bon, c'est dommage. Le faites pas, les modos. Petit ange parti trop tard. Bah ouais. Ah non, c'est terrible. C'est pas grave, il nous a quittés. Il nous a quittés. Il est parti ailleurs sur Internet. Un endroit où il se sentira mieux, j'espère. Donc j'étais en train de vous parler des promesses électorales. Ça, faut vraiment se mettre dans le crâne que quand vous êtes au gouvernement ou quand vous êtes élu d'une manière générale, vous ne pouvez pas mettre en œuvre vos promesses. Vous êtes obligé de tenir compte d'un réel qui évolue et qui vous force à changer les choses. Donc voilà. Les futurs élus sont au courant de la réalité. Mais ils peuvent pas prédire l'avenir. Tu peux prédire l'avenir, toi? T'es capable de me dire ce qui va se passer comme crack, choc pétrolier, coronavirus, bouleversement économique international? Donc non, en fait. Moi, je me souviens qu'il y avait des politiques qui avaient fait une promesse. Hein. Vous vous souvenez de la promesse? C'était une promesse importante. Hein. Plus jamais PS. C'était une promesse. Hein. Ça avait été promis. Hein. Et ben, ils ont quand même fait une alliance avec le PS, dis donc. Ah, c'est fou, hein. Ben oui, parce que les circonstances ont changé. Ils ont pas dit voilà. Ah, ils ont pas dit voilà. C'est la street. Ils ont pas dit voilà. C'est de la tromperie. Si je dis que je vais taxer les super-profits, abolir la réforme des retraites et que quand je suis élu, je fais l'exact opposé, techniquement, j'ai trompé mes électeurs. Non plus, non. Non, non, t'as juste tenu compte des réalités qui t'ont empêché de le faire. La retraite, c'était une promesse techniquement. Macron s'était engagé sur une réforme des retraites, oui, ça c'est vrai. Macron s'était engagé sur une réforme des retraites. Il a tenu sa promesse. J'ai pas dit que la promesse allait vous plaire, hein. Macron, il a promis à ses électeurs à lui de faire une réforme des retraites. Et il l'a faite. Sarkozy avait promis de faire le traité de Lisbonne, hein, dans sa campagne. Il a été élu. C'est une promesse, hein. Moi, on m'avait promis que la gauche avait gagné les élections législatives. Ah merde. Ah, c'est dommage. Ça, fallait pas écouter. Fallait pas écouter. Est-ce que quelqu'un compte encore sur la politique? Bah, dans 2 minutes, ouais. Ça commence à 14h. Moi, je compte sur eux, hein. Je compte sur eux pour poser des questions au gouvernement. Je compte pas beaucoup sur le gouvernement pour apporter des réponses qui me satisfassent, moi. Mais comme je vous le rappelle toujours, l'univers ne tourne pas autour de mon nombril, donc il y en a peut-être d'autres qui vont être satisfaits, tant mieux pour eux. On m'avait juré que les nazis avaient disparu après la guerre. Vous vous souvenez de Winston Churchill qui avait promis aux Britanniques, il leur avait promis du sang, de la sueur et des larmes. Et les Britanniques ont effectivement eu du sang, de la sueur et des larmes. Quel que soit les QAG, je me dis que LFI va encore prendre cher. Bon, ça dépend des questions, hein. Je vois pas pourquoi il prendrait cher sur toutes les questions. Mon papa, il m'avait promis qu'il reviendrait après être allé chercher des croissants. Bah ouais, mais pareil, il a dû faire face aux circonstances. Il a été obligé de tenir compte du réel et qu'il n'y avait plus de croissant. Donc il est jamais revenu. Est-ce que la question du conflit indo-pakistanais et de l'utilisation de matériel français va être évoquée d'après vous? Oui, je pense. Je pense. Le complément d'enquête, à mon avis, ça va parler à LFI. Bon, ils ont déjà parlé hier un petit peu d'LFI indirectement. Je sais pas s'ils vont en reparler aujourd'hui, hein. Puis je veux dire, LFI, ça concerne pas le gouvernement directement, hein. Tenir compte du réel dans les promesses politiques, c'est pas un peu caduque dans le sens où le pouvoir politique, la volonté, c'est justement. Pourquoi on vote pour que les choses changent? Ben oui, non, mais attends, tu peux vouloir que les choses changent et puis ensuite il y a un coronavirus qui vient foutre le bordel. Enfin, je veux dire, t'y es pour rien. Tu fais ce que tu peux, tu essayes. C'est comme si je te donne la barre du bateau et que tu me dis je vais aller dans cette direction, bah ben, vas-y, va dans cette direction, tu tiens la barre. Mais par contre, si le vent il change, ben, tu vas être obligé de virer des bords, tu vas être obligé de tenir compte du fait que ben, faut bien faire avec ce que j'ai sous les yeux, c'est-à-dire le vent, la mer, la visibilité et tout. Bon, bah ben, ça change, ça évolue. La météo, elle peut changer. Bon, bah, t'es obligé de tenir compte de la météo. Par contre, ta promesse, c'était d'aller dans cette direction. Bon, bah, t'essayes d'aller autant que possible dans cette direction. Peut-être tu vas taper un peu à côté. Mais c'est pour ça que je vous dis, quand vous votez, je vous invite vraiment, hein, je vous invite à voter. Je vous invite à voter en restant assez lucide. sur ces trucs-là, justement, quoi. Alors que Yaël Braun-Pivet, la présidente de l'Assemblée nationale, qui va s'installer au perchoir pour cette séance.
Bonjour à tous. La séance est ouverte. L'ordre du jour... Pardon, monsieur Cordier ?
Qu'est-ce qu'il y a ?
Il y a quand même plus de députés que ça. L'ordre du jour appelle les questions au gouvernement.
Allez, c'est parti.
La première question va être posée par madame la présidente Cyrielle Chatelain.
Cyrielle Chatelain, c'est la présidente du groupe écologiste à l'Assemblée.
Merci madame la présidente. Monsieur le Premier ministre, tout d'abord, je tiens à apporter mon soutien à Urgence Palestine. Dans notre démocratie, la liberté d'association est un droit fondamental. Monsieur le Premier ministre, hier, le ministre des Affaires étrangères a annoncé que la France pourrait reconnaître l'État de Palestine, mais cela, le moment venu. Quand, monsieur le Premier ministre, le moment sera-t-il venu pour la France de reconnaître l'État de Palestine ? Lorsque chaque Palestinien aura été forcé à l'exil, expulsé de son foyer, assassiné ? 51 000 morts à Gaza, 900 en Cisjordanie. Et pourtant, votre gouvernement n'a toujours pas interdit la vente de matériel militaire à Israël. Le gouvernement israélien bombarde les hôpitaux, détruit les écoles. Et pourtant, des sociétés israéliennes participent au grand salon de l'armement au Bourget. Le gouvernement israélien intensifie la colonisation en Cisjordanie. Et pourtant, le gouvernement français n'interdit toujours pas l'importation des produits issus de colonies. Le gouvernement israélien fait de la famine une arme de guerre, en empêchant toute aide alimentaire. 2 millions de Gazaouis, des enfants meurent de faim. Et pourtant, votre gouvernement n'a toujours pas exigé de l'Europe le retrait de l'accord d'association avec Israël. Le gouvernement israélien a fait de la bande de Gaza un cimetière. Il a annoncé vouloir la conquérir. Cela s'appelle un nettoyage ethnique. Monsieur le Premier ministre, le gouvernement israélien soumet intentionnellement le peuple palestinien à des conditions d'existence pouvant entraîner sa destruction partielle ou totale. La France et l'Europe ne répondent pas à leurs devoirs. Le moment est venu. Lequel de ces mesures allez-vous enfin mettre en œuvre ?
Cyrielle Chatelain, présidente des écologistes à l'Assemblée nationale, elle pose une question sur l'attaque de Gaza par Israël. On écoute la réponse du Premier ministre. Je vous rappelle que quand c'est un président de groupe qui pose une question, c'est toujours le Premier ministre qui répond.
Merci,
en personne.
Madame la présidente, mesdames et messieurs les députés, madame la présidente Cyrielle Chatelain. Vous avez raison, la situation à Gaza, et spécialement la situation des populations civiles à Gaza, est insupportable et révolte les consciences. La situation qui est créée par cette guerre, le fait que les populations soient dénutries, n'aient plus accès à l'alimentation, n'aient plus accès à l'eau, qu'une femme enceinte sur cinq soit en situation de dénutrition à Gaza... Tout cela est absolument insupportable. Et aussi insupportable, les annonces que vous avez rappelées, selon lesquelles le but était désormais la conquête de Gaza et l'évocation de déplacement de population, tout cela pour nous est insupportable. Cette bombe qui a explosé, il faut aussi que nous n'oublions pas qu'elle a un détonateur. Et le détonateur, c'est ce qui s'est passé le 7 octobre avec un pogrom. Il n'y a pas d'autre mot qui a tué, déchiré, blessé des jeunes filles, des jeunes garçons, des enfants et des bébés. Et cela, pour nous, est absolument aussi insupportable. Et donc, vous m'interrogez sur la position de la France, vous la connaissez, le président de la République l'a exprimée, et cette position de la France, c'est que nous voulons sortir de cette situation, nous voulons obtenir un cessez-le-feu, bien sûr, et une solution politique. C'est la seule façon, bien sûr, de garantir la sécurité d'Israël, le droit des Palestiniens et la stabilité de la région. Et c'est l'objectif de la conférence internationale que la France coprésidera avec l'Arabie Saoudite le mois prochain. Et à l'issue de laquelle, on l'a dit, il y aurait cette officialisation de la reconnaissance de la Palestine. On est donc à quelques semaines.
De l'État palestinien.
Moi, je voudrais simplement réaffirmer, avant que vous vous leviez, le droit inaliénable de la France d'être du côté des victimes, de toutes les victimes. Les victimes d'un côté et les victimes de l'autre, sans oublier quelles sont les responsabilités des uns et des autres, offrant ainsi un chemin crédible pour sortir.
Donc pas de surprise dans la prise de position de François Bayrou. C'est similaire à ce qu'on a entendu hier de la bouche de Jean-Noël Barrot, son ministre des Affaires étrangères. On attend la conférence franco-arabe.
Le président Bourlange l'avait rappelé dans cette assemblée. Les actes terroristes du 7 octobre n'ont absolument aucune excuse. Mais ils ont des causes. Et ces causes, c'est le fait que la France, c'est que l'Europe, c'est le monde a détourné son regard de Gaza, a laissé les Palestiniens peu à peu mourir et qui continuent à le faire. C'est insupportable, vous l'avez dit. Eh bien, il faut agir. Ce ne sont pas des mots que nous demandons, ce sont des actes. C'est ça qui est attendu de la France. Qu'allons-nous faire concrètement? Merci. Il y a des moyens à vous de les mettre en œuvre.
Merci beaucoup, Madame la Présidente.
Allez, on enchaîne.
La parole est à présent à Madame Blandine Brocard pour le groupe démocrate.
Monsieur le groupe démocrate, c'est le groupe du Modem, c'est le groupe de François Bayrou.
Bien sûr.
Excusez-moi, Madame la Présidente, mais c'est une situation assez grave. Vous dites « nous voulons des actes ». Quel est le seul pays qui conduit des actes dans cette région? C'est la France. Quel est le seul pays qui propose un chemin pour en sortir? C'est la France. Et quel est le seul pays qui revendique d'être du côté de toutes les victimes, d'un côté ou de l'autre? C'est la France.
Merci beaucoup.
François Bayrou qui ne veut pas qu'on dise que la France ne fait rien.
La parole est à présent à Madame Blandine Brocard pour le groupe démocrate.
Blandine Brocard.
Merci, Madame la Présidente. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre chargé des Transports. Les Français sont soumis aujourd'hui à une double exigence, celle de la transition écologique, bien sûr, mais aussi et peut-être surtout celle de la mobilité du quotidien. Car pour des millions d'entre eux, la voiture n'est pas un choix de convenance, c'est une nécessité, parce qu'ils n'ont tout simplement pas d'autres moyens. Les trains, quand ils existent, sont sous-dimensionnés ou vétustes, les cars insuffisants, les transports en commun réguliers, bus, métro, tram, réservés au cœur des grandes agglomérations, et les petites lignes ferroviaires abandonnées ou vétustes. Et pourtant, ces transports-là, les Français sont prêts à les prendre. Ils attendent ces solutions concrètes, accessibles, proches de chez eux. Ce sont elles qui permettront la transition écologique dans les faits et non dans les discours ou les interdictions, comme la ZFE chez moi. Nous ne pouvons pas leur demander des efforts sans leur offrir d'alternatives accessibles et efficaces partout. Alors certes, des choses ont été faites. La dette de la SNCF a été reprise et des investissements ont été relancés. Mais les besoins restent conséquents et nous n'ignorons pas les nombreuses contraintes budgétaires. C'est pourquoi une question revient régulièrement et légitimement dans l'esprit des Français. Pourquoi ne reverrions-nous pas le fonctionnement des concessions autoroutières et la manne financière qui en est dégagée? Monsieur le Premier ministre l'a lui-même affirmé, les autoroutes sont le patrimoine des Français, ils les ont payées avec les péages et elles peuvent leur rapporter des sommes considérables demain. Alors, Monsieur le ministre des Transports, dans le cadre des travaux de réflexion que le gouvernement a initiés, ma question est simple. Comment s'assurer qu'avec la fin annoncée des premiers contrats de concessions autoroutières dans 7 ans, le produit des péages sera plus largement utilisé dans des transports accessibles et efficaces, dans les mobilités du quotidien que les Français attendent légitimement dans tout...
Blandine Brocard, elle est députée du Rhône, elle a été proche de Gérard Collomb, et elle pose une question, vous l'avez compris, sur l'automobile en général, avec les ZFE, avec les petites lignes de train et avec les autoroutes. Qu'est-ce qu'on fait des concessions autoroutières? On écoute le ministre des Transports qui va répondre.
Madame la Présidente, mesdames et messieurs les députés, madame la députée Brocard, vous avez tout dit dans votre question. Avec monsieur le Premier ministre et mes collègues François Rebsamen et Amélie de Montchalin, nous avons lancé Ambition France Transport lundi à Marseille. Un modèle inédit et nécessaire face aux défis qui nous attendent. À ce titre, nous avons réuni l'ensemble des acteurs du secteur des transports, parlementaires, représentants des collectivités territoriales, des usagers, des filières professionnelles, des experts. Cette conférence, qui se déroulera sur 10 semaines, s'articule autour de 4 ateliers thématiques qui sont complémentaires, les mobilités régionales et notamment les services express régionaux métropolitains, les infrastructures routières, le transport ferroviaire et le verdissement du transport de marchandises, du fret. Autre question centrale, vous l'avez dit dans votre question, celle de l'avenir des concessions autoroutières. Qui doit financer l'entretien et les investissements? Quel doit être le rôle des péages? Faut-il envisager leur modulation selon les usages? Ces questions structurantes méritent un débat approfondi que nous mènerons sans tabou. L'État doit enfin revenir au cœur du dispositif, comme vous le dites depuis si longtemps, Monsieur le Premier ministre. Le transport nécessite visibilité et stabilité. Il ne s'agit pas d'opposer les modes de transport entre eux, mais de construire un système qui soit à la fois cohérent et à la fois solidaire. À l'heure où un Français sur trois, les chiffres sont impressionnants, à l'heure où un Français sur trois a déjà renoncé à une opportunité professionnelle faute de solution de mobilité pour se rendre sur son lieu de travail, nous devons nous donner les moyens de nos ambitions.
Est-ce que c'est votre cas d'ailleurs dans le chat? Est-ce qu'il y en a dans le chat qui ont refusé un job parce qu'il était trop loin?
Participez activement à cette conférence. Vos contributions seront précieuses pour construire ensemble l'avenir de nos mobilités et surtout leur financement.
Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. La parole est à présent à Monsieur Paul Molac pour le groupe Piot.
Merci.
Paul Molac, le député breton.
La question s'adresse au Premier ministre. Elle porte sur la place des langues régionales dans le projet de réforme de formation des enseignants. Le décret paru le 17 avril ne mentionne pas le concours spécial de recrutement de professeurs des écoles, c'est-à-dire de ces enseignants qui seront capables d'enseigner à la fois en français et à la fois dans la langue régionale. Pas de concours, pas d'enseignement. Alors que la Constitution a été modifiée en 2008 pour intégrer les langues régionales, qu'une loi de 2021 prévoit entre autres la généralisation de l'offre d'enseignement de la langue régionale, il semble que dans certains services du ministère, on n'ait pas encore pris ça en compte. En tout cas, l'inquiétude est grande, à la fois chez les enseignants et les parents qui ont mis leurs enfants dans ce type d'enseignement. Monsieur le Premier ministre, je connais votre attachement aux langues régionales et à leur préservation et à leur promotion. Ma question est simple. Comment protéger et promouvoir ce patrimoine exceptionnel sans concours et sans enseignement digne de ce nom, au mépris des conventions qui ont été signées entre l'État et les collectivités locales? Je pense à la Bretagne, je pense aussi au Pays Basque et à bien d'autres collectivités locales. Allez-vous faire modifier ce décret pour que le concours spécial de recrutement de professeurs des écoles y soit expressément mentionné et que ce concours prenne bien en compte les capacités linguistiques des candidats, évidemment en français et aussi dans la langue régionale concernée?
Paul Molac, le député breton, c'est un député régionaliste, c'est pour ça qu'il a toujours une tenue traditionnelle bretonne. Il est député du Morbihan et il s'inquiète pour les langues régionales, notamment la langue bretonne.
Le député Molac, votre préoccupation au sujet des langues régionales et de leur promotion est absolument légitime. Elle est partagée par le gouvernement, par le Premier ministre en tout premier lieu, je crois, mais aussi évidemment par la ministre d'État. En effet, leur enseignement est aujourd'hui favorisé dans les territoires où elles sont en usage, comme le prévoit le Code de l'éducation. Et elle contribue évidemment à favoriser largement l'apprentissage des langues, à commencer aussi par le français, au bénéfice des élèves. À ce titre, l'enseignement des langues étrangères et régionales est encouragé par le ministère, puisque le bilinguisme favorise, toutes les études le démontrent, le développement cognitif des enfants et l'apprentissage de langues nouvelles. Je me réfère ici à l'article 7 modifié du décret relatif au statut particulier des professeurs des écoles. Les concours spéciaux dédiés aux langues régionales sont bel et bien concernés par la réforme du recrutement de la formation initiale des étudiants. Aucun concours ne sera donc oublié, comme vous sembliez le craindre, et je voudrais vous rassurer pleinement sur ce sujet. À partir de 2026, les candidats inscrits en dernière année de licence ou d'un titre de diplôme équivalent pourront se présenter aux concours spéciaux de recrutement des professeurs des écoles dédiés aux langues régionales. Je vous remercie, Monsieur le député.
Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Monsieur le député.
Oui, alors c'est une bonne nouvelle et j'espère quand même que le décret soit modifié de façon à ce que les choses soient totalement claires. Et je rappelle simplement que l'enseignement bilingue, c'est un même professeur dans une classe qui parle les deux langues, ce qui veut dire que ça ne coûte rien en moyens. Pour une fois, on peut faire plus avec les mêmes moyens.
Merci beaucoup, mon cher collègue. La parole est à Monsieur Jean-Michel Brard pour le groupe Horizon.
Merci. Merci, Madame la Présidente.
Le groupe Horizon, c'est le groupe d'Édouard Philippe, le futur président de la République.
Depuis lundi, notre pays est confronté à un nouvel appel à la grève dans les transports publics. Il impacte une nouvelle fois les usagers de la SNCF dans leur besoin de déplacement. À chaque départ de vacances, à chaque jour férié, ces grèves désorganisent notre pays et pénalisent l'activité économique. Elles pénalisent d'autant plus les usagers des régions moins bien desservies où les fréquences sont déjà insuffisantes en temps normal. L'exaspération des usagers et leur lassitude sont plus que légitimes. Ils vivent de plus en plus mal les retards, les incidents liés à la qualité des infrastructures, les fermetures de guichets. Dans ma circonscription du Pays de Ré en Loire-Atlantique, ces décisions sont mal vécues. Le droit de grève est un droit constitutionnel auquel nous sommes attachés. Mais il ne doit pas faire oublier un autre principe tout aussi fondamental, la continuité du service public. Surtout, il ne saurait justifier que les Français soient systématiquement les victimes d'un bras de fer interne entre les syndicats et la direction. Pour ce long week-end, la direction semble avoir limité les dégâts. Mais cette situation est d'autant moins compréhensible que ces mouvements fragilisent durablement la SNCF elle-même à un moment où l'entreprise fait face à une concurrence accrue. Le gouvernement vient de lancer une grande conférence pour repenser le financement des infrastructures de transport. Les défis à relever pour le secteur ferroviaire sont immenses. Le marché s'ouvre à la concurrence, le poids de la dette est conséquent, les investissements sont nécessaires pour faire face aux dégradations du réseau et améliorer les services de proximité, en gare et sur les lignes TER. La transition écologique nécessite de développer des modes de transport moins polluants, comme c'est le cas pour le train. Il est plus que jamais essentiel de restaurer la confiance dans le service public ferroviaire. Monsieur le ministre, quelles actions...
Jean-Michel Brard, il est député de Loire-Atlantique, il est macroniste, il vient du côté de Pornic, et il pose une question, vous l'avez compris, sur les grèves de la SNCF qui perturbent le transport et qui énervent beaucoup de voyageurs.
La parole est à monsieur Philippe Tabarot, ministre en charge des transports.
Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Brard, je partage votre constat sur l'exaspération légitime de nos concitoyens, particulièrement dans les territoires comme le Pays de Retz, où vous évoquez la desserte ferroviaire, qui est un enjeu crucial sur la mobilité quotidienne. Cette situation est d'autant plus regrettable qu'elle intervient à la veille d'un week-end important pour de nombreuses familles. Je tiens toutefois à souligner que la grande majorité des agents SNCF, profondément attachés à leur mission de service public, a choisi la voie de la responsabilité. C'est grâce à leur engagement quotidien et à leur sens du service que nous pourrons maintenir un niveau de service très significatif ce week-end. Ce gouvernement maintient sa ligne, ne pas interférer sur les relations sociales au sein de la SNCF. Nous n'avons pas exercé de pression sur sa direction pour obtenir un accord à tout prix ou pour acheter une paix sociale temporaire avec le carnet de chèques des Français. Ce mode de fonctionnement a trop duré. Au-delà de la grève en elle-même, il y a aussi la question des modalités de son exercice pour l'organisation du plan de transport et la meilleure information des usagers. Je pense notamment à la question du délai de déclaration individuelle préalable à la grève, la question des préavis dormants qui font peser une menace permanente sur le service public, les grèves de 59 minutes qui tendent à désorganiser totalement le trafic. Soyons clairs, le droit de grève, vous l'avez dit, est un acquis fondamental, mais la liberté d'aller et venir l'est tout autant. Ces deux principes doivent être conciliés, pas opposés. À l'heure où les Français plébiscitent plus que jamais le train comme mode de transport écologique, nous ne pouvons pas nous permettre de fragiliser cette dynamique positive.
Bon, le gouvernement qui répond pas grand-chose à cette question sur la grève en disant qu'ils assument de ne pas faire un accord de circonstance avec le chéquier des Français.
Dans notre service public ferroviaire.
Voilà, donc confiance dans la SNCF, tout ça.
De circulation. Merci. Et cela sur l'ensemble du territoire
national. Pas de surprise dans la réponse.
La parole est à présent à monsieur Julien Brugerolles pour le groupe GDR.
Merci Madame la Présidente.
Monsieur Julien Brugerolles,
ministre de l'Économie. Ce 1er mai a eu le goût très amer des licenciements. 300 plans sociaux en cours, 300 000 emplois directement menacés. Chaque semaine apporte son lot d'attaques contre nos usines. Arkema, ST Microelectronics, Vancorex, ArcelorMittal. C'est désormais au tour de l'industrie du verre d'être la cible d'actionnaires sans foi ni loi. Le groupe Owens Illinois Glass, géant américain du verre, dont le premier actionnaire n'est autre que le fonds d'investissement BlackRock, a décliné son plan mondial de restructuration. Pour sa filiale OI France, le groupe communique sur 320 licenciements nets, soit près de 15% de ses 2200 salariés dans l'Hexagone. Outre l'annonce de la fermeture de sa verrerie de Vergès dans le Gard, 4 autres verreries produisant les bouteilles, pots et bocaux dont notre pays a besoin seraient touchées, dont celle de Puy-Guillaume avec 27 licenciements potentiels. OI France se porte pourtant très très bien, réalisant des bénéfices records. Cette entreprise a aussi touché 15 millions d'euros d'aides publiques directes entre 2019 et 2023 pour ses investissements. Aussi brutal qu'injustifié, ce nouveau plan social intervient encore une fois dans une filière essentielle au pays et à notre transition écologique. Monsieur le ministre, les ouvriers du verre attendent des actes forts. Des actes forts pour les protéger d'actionnaires qui ne jurent que par la rentabilité. Des actes forts pour les protéger de grandes puissances comme les États-Unis, la Chine ou d'États qui rêvent d'achever l'industrie française à leur profit. Interdiction des licenciements boursiers. Remboursement de toutes les aides publiques, soutien à la reprise de sites par les salariés, forte taxation des productions...
Julien Brugerol, vous ne l'avez encore jamais vu, c'est normal, il vient d'arriver à l'Assemblée nationale puisqu'il remplace André Chassaigne, l'ancien président, co-président du groupe de la gauche démocrate et républicaine. Julien Brugerol, député communiste de la 5e circonscription du Puy-de-Dôme, qui pose une question sur les licenciements. Que répond le ministre de l'Industrie ?
Madame la Présidente, mesdames et messieurs les députés, monsieur le député Brugerol, vous nous interrogez sur les difficultés de l'entreprise ONC Linois et surtout sur ses annonces qui touchent un certain nombre de sites sur le territoire français, à Vergès dans le Gard, à Puy-Guillaume, dans le Puy-de-Dôme. Mes pensées vont évidemment aux salariés et le soutien des services de l'État sera évidemment constant pour assurer leur accompagnement, leur reclassement. Le contexte de l'industrie du verre, vous le connaissez, c'est une demande et un marché qui diminue. C'est la concurrence d'autres mécanismes d'embouteillage et d'autres substances comme l'aluminium. Mais les décisions qui ont été prises, je dois le dire, et en particulier celle qui a été prise pour le site de Vergès, l'ont été sans recherche de diversification pour le site. Et face à cette situation... Nous sommes mobilisés. J'ai échangé sur ONC Linois et en particulier sur le dossier du Gard avec la présidente de région Carole Delga il y a quelques jours pour voir ce que sont les perspectives du site, pour voir ce que sont les perspectives de reprise. Et nous sommes aujourd'hui à pied d'œuvre avec les services de l'État pour trouver des opportunités. Vous dire que nous serons évidemment, comme nous le sommes sur chaque dossier, d'abord en recherche d'une solution industrielle pour la reprise des différents sites concernés. Que ces solutions industrielles, elles existent parfois. Et s'agissant de l'industrie du verre, nous avons réussi, il y a quelques semaines, quelques mois maintenant, à consolider le modèle économique de la verrerie Arc dans le Pas-de-Calais, avec 4000 emplois à la clé. Ça signifie qu'il n'y a pas de fatalité, mais je vous rejoins. Nous avons besoin de nous battre sur chaque dossier et aussi de trouver des solutions en se battant au niveau européen, en se battant sur les enjeux de protection commerciale. Vous le savez, car nous avons déjà eu l'occasion d'en discuter. Nous sommes là aussi au travail pour, avec la Commission européenne, trouver les voies d'une meilleure protection de nos industries et d'une sortie de la naïveté vis-à-vis de concurrents qui ne pratiquent pas toujours la concurrence de manière loyale. Je vous remercie.
Merci, tu m'étonnes.
Monsieur le ministre. La parole est à monsieur Marc Chavan pour le groupe UDR.
Le groupe UDR, c'est le groupe d'Éric Ciotti, allié à Marine Le Pen.
Ma question s'adresse au Premier ministre. Aujourd'hui, le président français Emmanuel Macron reçoit Ahmad al-Shara à l'Élysée. Cet homme est le fondateur du front al-Nosra. Sous son règne, des centaines de milliers de Syriens ont été massacrés, persécutés et des communautés entières ont été écrasées sous le poids de la terreur et de la charia. Les chrétiens, les druzes, les kurdes, les yézidis, tous ont payé le prix de sa soif de pouvoir. Comment justifier qu'un tel individu soit reçu en France, au cœur de la République, alors qu'il incarne tout ce que nous combattons ? Comment réconcilier cette rencontre avec nos engagements en faveur des droits de l'homme, de la liberté et de la dignité humaine ? Comment expliquer aux victimes du terrorisme, qu'elles soient en Syrie ou chez nous, que la France tend la main à celui qui a orchestré leur souffrance ? Et comment justifier cette rencontre à nos concitoyens musulmans, attachés à la République, que leur pays tend la main à celui qui a trahi leur foi ? Monsieur le Premier ministre, quel message envoyons-nous aux peuples persécutés, aux victimes du terrorisme et à la France elle-même ? Quelles garanties avons-nous reçues pour la protection des minorités en Syrie, pour la mise en place d'une transition démocratique, une vraie, pour l'avenir de la liberté et de la justice dans cette région ? Merci.
Merci beaucoup, monsieur le député. La parole est à monsieur Benjamin.
Merci, madame la présidente, mesdames et messieurs les députés, monsieur le député Chavan. Nous n'avons pas de leçons de diplomatie ou de droits de l'homme à recevoir de la part de ceux qui voulaient se soumettre devant Vladimir Poutine et s'allier avec le régime criminel de Bachar al-Assad en Syrie.
Benjamin Haddad, il est venu pour distribuer des claques.
La diplomatie, ce n'est pas donner un blanc-seing, c'est défendre nos intérêts et la sécurité des Français. Nous avons engagé, il y a déjà quelques mois, un dialogue avec les autorités de transition en Syrie, avec la visite du ministre des Affaires étrangères à Damas, précisément pour avoir un certain nombre d'exigences et de demandes à formuler. Lutter contre la dissémination des armes chimiques en Syrie, ça a été partiellement fait. Engager un dialogue politique avec nos alliés indéfectibles dans la lutte contre le terrorisme que sont les Kurdes, ça a été engagé. Et engager un dialogue représentatif avec les différentes forces politiques et les groupes qui composent la Syrie au sein du gouvernement, là aussi, nous avons obtenu gain de cause. Maintenant, si aujourd'hui, le président de la République fait le choix d'un dialogue et d'inviter le président de l'autorité de transition, Ahmed El-Shara, c'est précisément pour aller plus loin. Pour aller plus loin, pour demander que les responsables des massacres inacceptables qui ont été commis sur la côte occidentale de la Syrie contre les communautés alaouites ou contre les druzes soient traduits devant la justice et pour demander à continuer la lutte et la coopération contre les terroristes de Daesh que nous avons déjà engagés il y a plus de 10 ans. Parce que précisément, monsieur le député, l'effondrement de la Syrie demain, ce serait le tapis rouge déroulé au retour de Daesh. Vous voyez, sur tous ces sujets, nous n'avons qu'une seule boussole, les intérêts et la sécurité de la France.
Merci.
Benjamin Haddad qui défend donc la visite du président syrien.
Monsieur le ministre, vous parlez, vous adressez à nous avec mépris, comme d'habitude, donc je ne suis pas surpris. Le problème, c'est que... Merci. Avant de vous adresser à moi en disant que je suis un ami de monsieur Assad ou que je suis que je l'apprécie et de monsieur Poutine, vous feriez bien de revoir vos fiches et de vous renseigner. Moi, il se trouve que j'ai de la famille dans ces pays, que je vais là-bas régulièrement et vous soutenez un terroriste Al-Nostra, Al-Qaïda, Daesh, ça vous dit rien ? Hein, c'est une honte absolue. Donc quand on serre la main de quelqu'un, un terroriste en cravate reste un terroriste. Et quand on serre une main ensanglantée, ben on reste plein de sang. Voilà.
Marc Chavan, c'est un ancien de l'UMP qui a rejoint Éric Zemmour et Reconquête avant d'être élu député et de siéger avec Éric Ciotti.
Monsieur Théo Bernat pour le...
En tout cas, l'échange était musclé entre les deux.
Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre.
Le 21 Théo Bernard pour le Rassemblement National.
Et alors que les fidèles catholiques pleuraient la disparition de leur pape, l'Alsace, terre concordataire, a été frappée par une intrusion brutale, massive et inédite d'un prosélytisme islamiste arrogant financé par une puissance étrangère. Les habitants des communes d'Altenstadt et de Wissembourg ont ainsi vu se répandre des milliers de fascicules enseignant minutieusement la prière musulmane et clamant que l'islam serait, je cite, « la religion originelle ». Le choix de cette date n'est pas une maladresse, c'est un acte prémédité de provocation. Elle témoigne d'une volonté de nous déraciner et de nous soumettre à leur idéologie liberticide. Cela est d'autant plus flagrant que ces tracts proviennent d'organisations soutenues et financées par l'Arabie Saoudite, ce même royaume où règne la charia et où les libertés individuelles, notamment celles des femmes, sont purement et simplement niées. Depuis longtemps, Marine Le Pen dénonce la diffusion des idéologies islamistes sur notre sol. Même M. Retailleau, votre ministre, a affirmé vouloir combattre les frères musulmans, dénonçant leur volonté sournoise d'imposer la charia en France. Comme l'a très justement affirmé Boualem Sansal, la meilleure façon d'encourager l'islamisme, c'est de lui céder. Tout silence ou toute inaction serait précisément cette reddition que dénonçait l'écrivain franco-algérien. Mais pouvons-nous réellement espérer une quelconque action de votre part, alors qu'en ce moment même, Emmanuel Macron s'apprête à accueillir à l'Élysée un ancien djihadiste, autoproclamé président de la Syrie, discréditant ainsi un peu plus l'engagement de la France dans sa lutte contre l'islamisme ? Ma question est donc triple, monsieur le ministre. Que comptez-vous faire pour défendre nos concitoyens face à de telles ingérences étrangères ? Quand allez-vous rendre enfin public ce fameux rapport sur l'entrisme des frères musulmans dans notre pays ? Et quand allez-vous mettre en œuvre l'interdiction de cette organisation terroriste, comme l'a récemment fait la Jordanie ?
Théo Bernhardt, c'est un député alsacien qui soutient Marine Le Pen depuis qu'il a 18 ans.
François-Noël Buffet.
Et il pose une question sur de l'islamisme, visiblement un entrisme en Alsace. On écoute la réponse du gouvernement.
Votre question est évidemment extrêmement importante, mais vous ne pouvez pas à cet instant remettre en cause l'action déterminée du gouvernement et singulièrement du ministère de l'Intérieur sur les objets que vous venez de soulever. la détermination est totale pour lutter contre toutes les manières, toutes les façons et toutes les manières par lesquelles l'islam radical souhaite évidemment intervenir sur notre territoire. Ce n'est pas d'aujourd'hui. Une action de fond qui a été menée depuis longtemps avec des services renforcés, des moyens juridiques confortés, donnés à la fois à nos services de renseignement mais également à nos services de police et singulièrement aujourd'hui encore de façon plus accentuée avec d'autres moyens qui sont utilisés. Par ailleurs, la promulgation du rapport, en tous les cas, la publication, pardon, du rapport que vous proposez. Je crois que le ministère de l'Intérieur, le ministre d'État et le ministère l'a dit très clairement. Il sera prochainement rendu public dans les semaines qui viennent. Il reste, vous imaginez bien, je vous le dis très librement, que c'est un rapport qui était en partie classé et que tous les éléments qui sont donnés dans ce rapport ne peuvent pas être rendus publics pour de multiples raisons et d'abord de sécurité, à la fois de nos personnels mais aussi de sécurité nationale. En revanche, une fois que ce document sera prêt, il sera effectivement publié.
Merci beaucoup, monsieur le ministre. Monsieur le député.
Monsieur le ministre, prochainement, c'est quand ? Il n'y a aucun résultat. Il y a un entrisme dans les régions les plus reculées de l'Alsace et vous ne faites rien.
Bravo. Merci, monsieur le ministre. Non. La parole est à présent monsieur Éric Botorel pour le groupe Ensemble pour la République.
Ensemble pour la République, c'est le groupe des macronistes Renaissance.
Ma question s'adresse à monsieur le Premier ministre et j'y associe mes collègues Louise Morel et Aïda Adizadeh. Le 7 mai 2022, Cécile Kohler et Jacques Paris ont été enlevés par les autorités iraniennes et sont depuis devenus les otages de la République islamique d'Iran. Cet État théocratique, parrain du terrorisme, qui obstinément nie femme, vie et liberté. Car oui, ils sont otages d'État depuis 3 longues années. 3 années d'attente, de silence, de douleur. 3 années à survivre dans les entrailles de la prison d'Evine, à Téhéran, une prison tristement célèbre, où l'isolement et la torture sont la règle. Cécile est enfermée dans une cellule de 8 mètres carrés, sans lit, sans fenêtre, sans répit. Une lumière crue allumée jour et nuit, une caméra braquée sur elle, sans cesse. Son seul confort, une couverture posée à même le sol. Placée sous le contrôle total de ses geôliers, elle est soumise à des mauvais traitements. Ses conditions sont les mêmes, voire pires pour Jacques. Face à cette torture, Cécile résiste par la poésie. Cécile n'a ni de quoi écrire, ni possibilité de recevoir du courrier ou les livres envoyés par ses proches. Alors Cécile écrit des poèmes dans sa tête et elle se les répète tous les soirs pour ne pas les oublier, jamais. Les parents de Cécile et sa sœur Noémie l'ont eu quelques minutes au téléphone exceptionnellement il y a quelques jours. Leur geôlier leur annonce toujours qu'un jugement est imminent et que le verdict sera extrêmement sévère. Et ce verdict est sans cesse repoussé, une véritable torture. Cécile et Jacques souffrent, ils s'usent, mais ils résistent, car ils savent aussi que nous sommes là, que leurs visages sont dressés sur les grilles de notre assemblée, pas loin, que partout en France, aujourd'hui même, 50 rassemblements crient leur nom. Avec Otage du Monde, avec son avocate, avec l'association de soutien, la famille, les amis, tous savent que le silence ne les sauvera pas. L'indifférence condamnerait Cécile et Jacques. Les efforts diplomatiques de la France n'ont pas porté leurs fruits. Il est temps de placer les autorités iraniennes face à leurs responsabilités. La France a annoncé que face au refus des visites consulaires opposées par l'Iran, elle allait porter plainte devant la Cour internationale de justice. Alors je vous pose cette question, monsieur le Premier ministre. Quand cette plainte sera-t-elle déposée? Et surtout, que faisons...
Éric Botorel, député de La République En Marche, qui pose une question, vous l'avez bien compris, sur les otages en Iran, notamment les otages français. Où est-ce qu'on en est? Que fait le gouvernement pour que nous n'oublions pas ces otages?
Merci beaucoup.
On va voir la réponse du gouvernement. Standing ovation de tous les bancs de l'Assemblée nationale à l'évocation des otages français en Iran. C'est spontané de la part des députés d'applaudir ainsi la question posée par leur collègue Éric Botorel.
Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Botorel, merci de votre question qui témoigne de votre engagement constant sur ce sujet. Trois ans que nos compatriotes Cécile Kohler et Jacques Paris sont injustement détenus dans les geôles iraniennes. 3 ans que nos compatriotes sont détenus dans des conditions indignes que vous avez rappelées et dont certaines relèvent de la définition en droit international de la torture. Depuis 3 ans, leurs conditions de détention méprisent toutes les conventions internationales. C'est inacceptable. Et je vous le redis ici, la France réitère sa plus ferme condamnation à l'égard de la politique d'otage d'État de la République islamique d'Iran. Cette situation est inadmissible et la libération de Cécile et Jacques n'a que trop tardé. La France a porté un nouveau train de sanctions européennes contre les responsables de cette politique d'otage d'État qui a été adoptée par les ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne le 14 avril dernier. Nous introduirons, vous l'avez dit aussi prochainement, une instance contre l'Iran devant la Cour internationale de justice pour violation de la Convention de Vienne de 1963 sur les relations consulaires. La France continuera d'agir sans relâche pour leur libération, continuera d'avoir une politique claire et sans faiblesse à l'égard de l'Iran. Nos deux ressortissants doivent être libérés immédiatement et sans condition. Nos pensées vont à leur famille avec laquelle le président de la République s'est entretenu en février dernier et je tiens à saluer devant vous leur force, leur résilience devant cette épreuve odieuse qui leur est imposée par l'Iran. Les portraits de Cécile et Jacques sont affichés sur les grilles de l'Assemblée nationale et je vous tiens à vous remercier sincèrement, Madame la Présidente, de cette initiative ainsi que l'engagement de tous les parlementaires, Monsieur le député Botorel, Madame Adizadeh, Madame Louise Morel. Elle témoigne de la solidarité de l'ensemble des Français envers nos compatriotes. Des rassemblements auront lieu aujourd'hui, d'ailleurs, à Paris et dans d'autres villes de France, à l'initiative des familles. Rassemblements qui sont autant d'occasions de marquer la solidarité nationale envers Cécile Collère et Jacques Paris et d'appeler à leur libération. Nous continuerons à rester toujours mobilisés jusqu'à qu'ils rentrent chez nous.
Merci beaucoup, Monsieur le ministre. La parole est à Monsieur Laurent Alexandre pour le groupe La France Insoumise.
Laurent Alexandre, le député insoumis.
Madame la Présidente, Monsieur le ministre de l'Économie, avec la Macronie, vous avez accepté la délocalisation des fonderies. Vous avez accepté la délocalisation des productions automobiles françaises. Vous avez abandonné l'usine de chimie Vancorex après la SAM, après GMS. ArcelorMittal annonce 600 licenciements. Le groupe veut délocaliser aux États-Unis, au Brésil, en Inde. Si aucune mesure n'est prise, 15 000 emplois sont menacés, 60 000 avec les sous-traitants. Les délocalisations, ce sont des catastrophes pour les territoires, mais aussi des drames humains. C'est aussi la souveraineté industrielle du pays et l'avenir de notre économie qui sont menacés. Sans sidérurgie nationale et sans acier, la relocalisation d'industrie est impossible dans les territoires. Nous ne cessons de vous proposer une planification industrielle avec un protectionnisme solidaire, le conditionnement des aides publiques au maintien de l'emploi et à la relocalisation d'activités dans les bassins sinistrés, l'interdiction des licenciements en cas de versement abusif de dividendes, un prix de l'énergie stable pour nos entreprises. Votre dogmatisme est incapable de protéger notre industrie. Arrêtez de vous laisser rouler dans la farine par Mittal. Il en va de l'intérêt supérieur de la nation. 850 millions d'euros d'aide publique ont été attribués à Mittal pour décarboner le site de Dunkerque, mais rien n'a été entrepris. Pire, Mittal a enrichi de façon indécente ses actionnaires avec l'argent public. Ils ont touché plus de 6 milliards de dividendes en 3 ans. Nous vous demandons d'être intransigeants. Vous avez imposé un budget injuste aux Français par 49.3, mais vous avez peur de contraindre Mittal. Cessez d'être fort contre le peuple. Soyez fort pour le peuple. Nationalisez ces usines pour sauver les emplois et les savoir-faire.
Laurent Alexandre, à ne pas confondre avec son homonyme qui a fondé Doctissimo. Laurent Alexandre, il est député La France Insoumise. Il a lui-même été ouvrier qualifié dans une entreprise d'aérospatiale. Il a été à la Confédération Générale du Travail, la CGT. Il pose une question sur les suppressions d'emplois d'ArcelorMittal suite aux annonces de délocalisation.
Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Laurent Alexandre. Il y a deux manières d'aborder la question de l'industrie dans notre pays. On peut critiquer, on peut agir. Vous nous parlez de protection commerciale. Il se trouve que nous agissons au niveau européen, et nous l'avons fait s'agissant de la filière sidérurgique, en mettant sur la table des propositions qui ont été reprises par la Commission européenne le 19 mars dernier dans le cadre d'un plan acier qui doit protéger cette filière. Vous nous parlez des prix de l'électricité. Nous agissons sur ce sujet en accompagnant la négociation et les négociations qui ont lieu au moment où nous nous parlons entre EDF et les industriels électro-intensifs, dont Arcelor, avec l'objectif, avant le 1er janvier 2026, de fournir à nos industriels la capacité à lutter à armes égales sur les prix de l'électricité, et nous allons y parvenir. Vous nous parlez plus largement de la filière sidérurgique et d'Arcelor. Là aussi, nous agissons. J'ai alerté, dès que j'ai été nommé ministre de l'Industrie, sur la situation de la sidérurgie. J'ai rencontré la semaine dernière la direction Europe d'Arcelor pour comprendre ce qu'étaient les perspectives des différents sites qui sont concernés par les restructurations.
J'ai rencontré, en début de cette semaine, le commissaire Séjourné pour lui dire ce qu'étaient les leviers du maintien de l'emploi industriel pour Arcelor et pour la filière sidérurgique de notre pays. Les leviers, ils sont au niveau français, ils sont aussi au niveau européen. Et j'ai rencontré hier les élus, les représentants syndicaux, pour leur dire ce qu'étaient les actions que nous envisagions au niveau européen. Donc dire que nous n'agissons pas, c'est être à côté de la réalité, monsieur le député, je veux vous le dire. Et dire que toutes les solutions, au fond, ne valent rien dès lors qu'on n'engage pas la nationalisation, c'est ne pas être à l'écoute des élus du territoire et des représentants syndicaux, car j'ai échangé avec eux hier. Et les représentants syndicaux ne se résument pas à un seul discours. Certains sont conscients que la seule et la vraie solution pour garantir la pérennité de l'acier dans notre pays, c'est d'investir, c'est d'innover, et en particulier dans la décarbonation. Nous y sommes prêts. Je ne pense pas que ce soit votre cas, monsieur le député.
Merci beaucoup, monsieur le ministre. La parole est à présent... Allez, s'il vous plaît. La parole est à madame Chantal Jourdan pour le groupe socialiste.
Chantal Jourdan.
Merci madame la présidente. Ma question s'adresse à madame la ministre chargée des comptes publics. Vous avez annoncé récemment une coupe budgétaire de 3,1 milliards d'euros qui ampute des missions essentielles pour l'avenir. Je note moins 550 millions pour l'écologie, moins 550 millions pour la recherche et moins 140 millions pour l'agriculture et les forêts. Plutôt que sacrifier encore un peu plus notre avenir, commençons par abandonner les soutiens financiers apportés aux projets écocides qui entretiennent l'industrie fossile. Vous êtes à la recherche de recettes pour l'État. Je vous invite à étudier les propositions faites par la gauche qui permettraient de contribuer à la hauteur des enjeux aux missions réellement déterminantes pour les décennies à venir. Gardons-le à l'esprit. Chaque retard dans le domaine de la transition écologique, de la lutte contre le réchauffement climatique et de la biodiversité nous coûtera cher demain et encore plus après-demain. Sans engagement budgétaire fort pour l'écologie, la France se verra d'autant plus endettée. Madame la ministre, contrairement à ce que vous affirmez, ces annulations vont remettre en cause la capacité des politiques publiques. Les collectivités vont encore pâtir des restrictions budgétaires sur la cohésion des territoires et sur le fonds vert, alors qu'elles sont majoritairement engagées sur des projets écologiques. Le monde agricole, mobilisé à 86% pour faire évoluer ses pratiques sur des objectifs clarifiés, va se décourager davantage. Par exemple, alors que le pacte en faveur de la haie commence à montrer de très bons résultats sur le terrain, cette coupe budgétaire va encore pénaliser cet élan. Alors, Madame la Ministre, par ces nouvelles annonces budgétaires, ne pensez-vous pas compromettre une transition sans laquelle les crises de demain nous coûteront des milliards ? Faut-il attendre le pire plutôt que de faire des choix cohérents pour l'avenir ? Je vous remercie.
Merci beaucoup. La parole est à madame. Madame Agnès Pannier-Runacher, ministre de la Transition écologique.
Merci madame la présidente, mesdames et messieurs les députés, madame la députée Jourdan. Je tiens à le dire très clairement, mon ministère, comme tous les autres, prend sa part dans le redressement des comptes publics. Parce que c'est ça aussi garantir notre avenir et garantir la capacité des générations futures à tenir les trajectoires que nous portons. Mais je veux vous rassurer, le budget de la mission écologie pour 2025 reste supérieur à celui de 2024, car nous investissons pour l'avenir, c'est ma priorité. La dette écologique et la dette publique, vous le savez, sont les deux faces de la même pièce. Aucun des deux ne doit être sacrifié. Pour faire face à cette situation d'effort budgétaire, j'ai agi pour mobiliser de nouveaux modes de financement de la transition écologique. Les certificats d'économie d'énergie pour financer l'électrification des véhicules ou la rénovation thermique. 2 milliards d'euros de financement de la Caisse des dépôts pour soutenir la rénovation thermique des écoles, en plus par rapport à ce qui était initialement prévu, et pour améliorer nos réseaux d'eau potable à des taux compétitifs. De nouveaux financements européens, et vous savez que nous nous sommes battus pour maintenir le programme LIFE. Vous pouvez donc compter sur moi, madame la députée, pour rester très vigilant à ce que nous conservions un haut niveau d'ambition dans notre action écologique. Car oui, nous le savons toutes deux, en matière environnementale, le coût de l'inaction est bien plus élevé que le coût de l'action. Je ne manquerai pas de le rappeler lors de la préparation du projet de loi de finances 2026 et je compte sur vous et votre groupe pour nous soutenir.
Merci beaucoup, Madame la Ministre, Madame la députée.
Elle a le sens de l'humour.
Madame la Ministre,
elle a raison, elle a raison.
Le ministère ne devrait pas être touché. Vous devriez le défendre.
Je vous remercie. Et elle a raison aussi.
La parole est à Madame Sylvie Baudet,
Chantal Jourdan.
Droite républicaine.
Allez, les Républicains.
Merci. Merci, Madame la Présidente. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre des Affaires étrangères. Hier, l'Assemblée nationale a voté pour la libération immédiate et inconditionnelle de Boualem Sansal. Un seul groupe a osé s'y opposer, la France insoumise. Ce vote n'est pas un accident, ni un simple écart. C'est la signature provocatrice d'un mouvement qui multiplie les affronts à la France. LFI semble trouver normal que Boualem Sansal, 75 ans, figure de la critique du régime algérien, ait été arrêté à Alger et condamné à 5 ans de prison. Jugé en 20 minutes à peine, sans défense, sans respect de ses droits fondamentaux, sans assistance consulaire, l'Algérie viole ses engagements internationaux, piétine les droits humains et pendant ce temps, LFI justifie l'injustifiable, relativise l'arbitraire, excuse l'oppression. C'est d'autant plus inquiétant que cette provocation de LFI n'est pas isolée. En février 2025, un militant pro-Hamas était candidat sur la liste LFI au municipal,
allez, s'il vous plaît,
pendant que Rima Hassan qualifiait l'action du Hamas de légitime. En mars, le député LFI Raphaël Arnaud a organisé une table ronde avec le collectif contre l'islamophobie en Europe, avatar du CCIF, qui a été dissous par propagande islamiste. Chers collègues, nous devons combattre cette posture de LFI. La banalisation de la violence, l'excuse de l'antisémitisme, la complaisance envers l'islamisme et le communautarisme. Avec la droite républicaine autour de Laurent Wauquiez, nous alertons depuis des mois.
Ah, elle soutient Laurent Wauquiez et pas Bruno Retailleau. J'espère que vous l'avez compris. Sylvie Bonnet, pardon, députée de la Loire. Elle siège chez les Républicains. Elle pose une question sur Boualem Sansal et elle en profite pour faire une charge en règle contre la France insoumise qu'elle accuse de sympathie avec l'islamisme.
Alors que le régime algérien ne cesse de nous humilier et trouve des alliés objectifs au sein même de notre hémicycle, pourriez-vous éclairer sur ces actions concrètes ?
La parole est à Monsieur Benjamin Haddad, ministre des Affaires européennes.
Benjamin Haddad qui va répondre. Merci, est-ce qu'il va répondre sur LFI ou sur Boualem Sansal ?
Madame la députée Bonnet, merci de votre question. Hier, la représentation nationale a adopté la résolution appelant à la libération inconditionnelle et immédiate de notre compatriote Boualem Sansal, injustement détenu aujourd'hui en Algérie pour ses écrits. Et je voudrais saluer l'engagement des parlementaires, à commencer par la rapporteure, Madame Constance Le Grip, le président de la Commission des Affaires étrangères et tous ceux qui se sont engagés ici comme ailleurs pour la libération de notre compatriote. Hier, Madame la députée, notre représentation nationale aurait pu envoyer un message unanime à notre compatriote Boualem Sansal, aurait pu envoyer un message unanime à l'Algérie et au monde pour dire que la France est toujours du côté de la liberté d'expression, de l'universalisme de ses valeurs, et toujours aux côtés des écrivains qui se battent pour la laïcité et pour nos valeurs. Malheureusement, Madame la députée, un groupe a fait le choix, une fois de plus, de l'indignité. Une fois de plus a fait le choix, la France insoumise a choisi le clientélisme, le communautarisme, le cynisme, plutôt que d'être du côté de nos valeurs de liberté et d'universalisme. Quelle indignité ! Est-ce qu'il ne vous reste pas une once de décence, une once d'humanité, juste pour rappeler à la libération d'un homme malade de 75 ans ? Je peux vous assurer, Madame la députée, que le gouvernement sera toujours mobilisé pour se battre, pour avoir une issue humanitaire et digne et obtenir la libération de notre compatriote. Merci beaucoup.
Merci beaucoup, Monsieur le ministre. La séance des questions au gouvernement est terminée. La séance est suspendue et reprend à 15h.
C'est la fin de cette séance de questions d'actualité au gouvernement. Les députés vont faire une pause avant de reprendre dans 10 minutes leurs travaux. Je ne sais pas exactement sur quoi ils vont voter d'ailleurs cet après-midi. Bah si, il y a l'exclusion là d'ailleurs des... Oula ! Non, pardon, je me suis trompé. C'était celle-là. Ouais, ils doivent voter sur l'exclusion de, sur la sanction des deux députés dont on a parlé avant l'émission, qui ont utilisé leurs indemnités parlementaires pour faire un peu n'importe quoi. Genre acheter de la drogue ou s'inscrire sur un site de rencontre. Bref, peu importe, il a fallu attendre la dernière question de cette séance de questions d'actualité au gouvernement pour qu'il y ait de l'ambiance dans cette séance qui jusque-là était très très calme. La dernière question qui a porté donc sur la libération de Boualem Sansal et sur le vote négatif de la France Insoumise. Moi, je trouve ça curieux de la part de la députée de prendre une question au gouvernement pour en profiter pour régler des comptes avec les Insoumis, quoi. C'est ça que je trouve bizarre. Bon, elle a décidé de faire ça, elle est libre, hein, elle a le droit de le faire, donc bon, bah voilà, elle a décidé de s'en prendre à la France Insoumise sans qu'ils aient la possibilité de répondre. Bon, tu me diras, c'est un truc qui a déjà été pratiqué par d'autres groupes à l'Assemblée, mais... c'est quoi l'argument de la France Insoumise pour pas avoir voté pour la libération? J'ai pas suivi. Moi non plus, j'ai pas suivi. Mais je crois savoir que les Insoumis n'aiment pas beaucoup Boualem Sansal. Je crois que Boualem Sansal a déjà dit par le passé qu'il n'était pas très fan de la France Insoumise. Je crois, j'ai pas le détail, mais j'ai vu passer des trucs comme quoi les Insoumis ils aiment pas beaucoup Boualem Sansal. LR, ils sont en boucle sur LFI depuis des semaines, ils ont vraiment rien de plus important à soulever. Bah, les Républicains, ils sont en campagne, je te rappelle, ils sont en campagne entre Laurent Wauquiez et Bruno Retailleau. Donc ils font de la surenchère des magots, et donc ils font de la surenchère, ils en profitent pour taper sur LFI, parce que c'est gratos, ça coûte pas très cher, et ils sont sûrs de rassembler un maximum avec ça, quoi. C'est surtout que la France n'a pas de pouvoir sur les décisions en Algérie, donc un peu bizarre comme démarche, l'Algérie n'est plus une colonie. C'est justement parce que l'Algérie n'est plus une colonie que la France peut se permettre de dire à l'Algérie ce qu'elle pense de sa gestion, notamment des arrestations d'artistes. Heureusement qu'on a des rapports avec l'Algérie qui sont des rapports d'État à État. Les questions sont finies. Ouais, c'est la fin de la séance des questions au gouvernement. Et effectivement, vous avez noté que les députés arboraient sur le revers de leur veste un insigne qui s'appelle le bleuet, qui est un insigne de mémoire des anciens combattants morts pour la France, et c'est un insigne qui est arboré à l'occasion du 11 novembre, du 1er novembre pardon, à chaque fois je les confonds, du 1er novembre et non c'est l'inverse, c'est le 11 novembre, putain la vache, et du 8 mai, ça le 8 mai je suis sûr, 8 mai 45 ça je sais, mais en novembre c'est le 1er novembre, c'est la Toussaint. Et le 11 novembre, c'est l'armistice. Donc c'est le 11 novembre. Non, c'est bien ça. 11 novembre, armistice. Putain, Jean, tu l'as appris. Tu l'as appris en CM2, ça. 11 novembre, armistice. 11 novembre, armistice. Ouais. Je l'ai. C'est le 11 novembre et le 8 mai. Ouais, je sais. Non, mais ça va rentrer. Vous allez voir qu'un jour, ça va rentrer, hein. Depuis que je suis petit, j'arrive pas à faire rentrer ça, mais un jour je vais y arriver. Hein. Dès qu'il y a un truc férié, tu demandes à un proche. À chaque fois qu'il y a un jour férié, tu dis au fait, c'est pourquoi là? Ah mais oui, c'est le 1er janvier. Ah mais oui, non mais oui, bien sûr. C'est facile, c'est le lendemain de mon anniv. Oh, c'est mignon. C'est mignon. Bon, j'espère que ça vous a plu, cette séance de questions au gouvernement. Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont surpris? Parce que moi, je n'ai pas été tellement surpris cet après-midi par les sujets qui ont été abordés. Non, c'est pas ça que je voulais mettre. C'était ça. Israël-Gaza, ouais, le modem, l'automobile et les autoroutes, d'accord. Lyotte sur les langues régionales avec Paul Mola, qui effectivement, Horizon, les grèves de la SNCF. GDR, les licenciements, notamment dans une verrerie. L'UDR, la visite du président syrien, effectivement. Le Rassemblement national, l'islamisme en Alsace, un dossier très local, mais voilà. EPR, les otages en Iran. LFI, ArcelorMittal. Le PS, les coupes budgétaires. Et coupe budgétaire écologique en l'occurrence, et les Républicains, c'est LFI. Le sujet de la question, c'était LFI. À l'occasion de Boualem Sansal, LFI. Est-ce qu'il y a une limite de nombre de jours fériés en France ? Non. J'ai jamais compris, c'est pas censé être interdit les attaques ad nominem pendant les QAG ? Si, mais là, il n'y avait pas... Attaque ad nominem, ça veut dire au nom d'une personne. Là, il n'y avait pas d'attaque contre une personne, il y avait d'attaque contre un groupe. Heureusement qu'on a le droit de s'en prendre aux autres groupes de l'Assemblée nationale, quand même. Non, mais quand même, là, c'est pas parce que c'est LFI qui est visé, mais heureusement que LFI a le droit de s'en prendre au groupe macroniste. T'imagines, sinon ? Il n'y a rien sur un de Pakistan. Pas aujourd'hui, non. Les attaques ad groupinem. Ad groupinem. J'aime bien. Non, non, heureusement qu'on a le droit. Heureusement qu'on a le droit de mentir aussi à l'Assemblée nationale. Non, heureusement que les députés ont le droit de s'alpaguer entre groupes pour régler leurs comptes. C'est le principe même d'un parlement, hein, tu me diras. Je vois pas l'intérêt de faire un parlement si t'as pas le droit de t'en prendre au groupe d'en face, hein. Pourquoi les députés ont le droit de mentir ? Parce que c'est un parlement, les amis. C'est pas un comité d'experts, hein, heureusement. Les députés, ils ont le droit de défendre leurs opinions. Vous avez le droit de défendre l'idée que Macron fait de la merde, même si c'est un gros mensonge. Est-ce que c'est un mensonge ? Est-ce que ce n'est pas un mensonge ? J'en sais rien. C'est juste parce que si vous n'êtes pas d'accord sur cette vérité-là, c'est pas grave. Ça s'appelle un parlement. On est là pour en parler. C'est le principe d'un parlement. C'est un avis, c'est pas un mensonge. Exactement. Et ben c'est pareil pour énormément de choses. Le gouvernement ne fait rien pour l'écologie. C'est un avis ou un mensonge ? Ben c'est les deux. Tu vois ? Peut-être qu'il fait pas assez, peut-être qu'il va pas dans la bonne direction, peut-être qu'il accélère pas assez vite, peut-être que plein de choses. Mais on a le droit de dire ce genre de choses dans un parlement, c'est ça que je défends. Ce que je veux dire, c'est que la sanction du mensonge, elle est politique. Heureusement qu'il y a une sanction politique lorsqu'il y a un mensonge. Mais la nature du mensonge, ça, il faut en discuter. Parce qu'on peut ne pas être d'accord. Si je vous dis que le nucléaire est une bonne énergie, c'est une bonne source d'électricité, le nucléaire, c'est vrai ou c'est faux ? Ben, c'est ni vrai ni faux, c'est un avis. C'est un avis qui est argumenté, qui est argumentable. Mais on a le droit d'être contre. Heureusement qu'on a le droit de ne pas partager cette opinion. Tu confonds mensonge et vrai-faux. C'est quoi pour toi un mensonge alors, si c'est pas dire quelque chose de faux ? Bayrou a quand même menti à l'Assemblée. Ouais ? Moi je considère que Bayrou a menti à l'Assemblée, oui. Oui, je suis d'accord avec toi. Et je lui en veux pour ça. Donc j'ai un problème politique avec François Bayrou. De la même manière qu'un ministre qui déclare « je n'ai pas de compte en Suisse » alors qu'en réalité il a un compte en Suisse, c'est un mensonge. Et moi je considère que ce ministre doit quitter le gouvernement. Et je considère qu'il faut voter une loi pour empêcher que ça arrive à nouveau. Donc c'est ma manière à moi de considérer les choses. Attendez, il y a quelqu'un qui sonne, j'arrive. J'ai un colis, vous bougez pas, je reviens tout de suite. Hein. Je vais le chercher là dans l'ascenseur, j'arrive. Eh ben putain. Pardon, excusez-moi, pardon. Putain, vous êtes restés en plus. J'étais en train de me dire, mais ils sont tous barrés, c'est sûr. Qu'est-ce que c'est que ce stream de merde? Mais c'est quoi ce streamer? Tout ça pour me faire livrer ça en plus. C'est une fiche d'adaptation pour micro. Hop. Zou. Voilà. C'est censé rentrer, hein. Il s'est rien passé. Vous avez rien vu, c'est pas vrai. Vous mentez. Bon, bref, vous savez quoi? Je m'en occuperai cet après-midi. Ça va me saouler. Ne jamais forcer. Ouais, voilà, c'est ça. les dents, meilleur outil. Ouais, non, les dents, vaut mieux éviter aussi. Bref, faites pas ce que je fais, faites pas ce que je sais. Voilà. Je m'en occuperai plus tard. Ça tombe bien, il est 15h. Putain, c'est vrai qu'on est en plein après-midi. Oh là là là. De quoi on parlait avant? Avant que ça n'intervienne. On était sur quoi? Je me souviens plus. Je ne me souviens plus de quoi on parlait, le mensonge. Non mais ça c'est bon, mensonge en politique. Ouais, mensonge à l'Assemblée nationale. Vous avez le droit de mentir. Voilà, vous avez le droit d'être de mauvaise foi. Vous avez le droit de faire de la langue de bois, vous avez le droit. Après, ça plaît ou ça plaît pas, c'est un autre débat. Si vous voulez gagner des élections, je vous conseille de plutôt dire la vérité. Mais c'est vous qui voyez. Un avis n'est pas un mensonge. Vous avez le droit d'exagérer aussi, par exemple. Vous avez le droit de grossir le trait. Vous avez le droit de caricaturer. Vous avez le droit de faire de l'ironie. Un avis peut être vrai ou faux. Je n'aime pas la glace à la pistache. C'est vrai ou c'est faux? C'est ni vrai ni faux, c'est juste que j'aime pas ça, c'est tout. C'est un goût. Pourquoi tu mens? Pourquoi tu mens, bâtard? Eh, bâtard! Donc c'est vrai. Tout le monde aime la glace à la pistache. Mais oui, bien sûr. C'est comme quand les politiques ils commencent leur phrase par « Les Français disent, les Français veulent, les Français souhaitent, les Français expriment, les Français défendent, les Français, les Français, les Français. » Ben, moi, je dis qu'ils ont le droit d'utiliser cette formule-là. Je vais probablement pas être d'accord avec eux. Hein. Mais c'est mon problème. Les Français réclament. Ouais, les Français réclament, les Français exigent. Les Français attendent. Les Français n'en peuvent plus. Regardez là, par exemple, sur la grève de la SNCF. Les grèves à la SNCF, les Français n'en peuvent plus. Les Français se plaignent de la grève à la SNCF. Bon, factuellement, c'est plutôt vrai. Si on regarde les sondages, les Français sont plutôt majoritaires à avoir un regard négatif sur les grèves à la SNCF. Mais bon. Donc c'est pour ça que moi, les députés, ils ont le droit de dire ça, hein, s'ils veulent dire ça. Moi, je suis assez libéral quand même en matière de liberté d'expression à l'Assemblée nationale. Le jeu démocratique exige une liberté de ton et une liberté de parole aussi de la part des gens qui s'expriment, quoi. Le jeu démocratique, comme on dit, ouais, c'est ça, le jeu démocratique exige la possibilité de dire des choses, de s'exprimer, d'exprimer sa position, d'exprimer son opinion, etc. Et si pour ça, vous devez faire des aménagements avec la vérité, vous devez pouvoir le faire. C'est ça que, en fait, ce que je pense, c'est que vous devez pouvoir le faire. Je dis pas que vous devez être applaudi, je dis pas que vous méritez une approbation par tout le monde, non. Je suis pas d'accord avec vous, mais je me battrai. Oui, c'est le fameux truc voltairien. Alors, d'ailleurs, vous savez que Voltaire n'a jamais dit cette phrase. Hein. Je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites, mais je me battrai pour que vous puissiez le dire. Cette fameuse phrase que l'on prête à Voltaire n'a jamais été prononcée par Voltaire. Mais comme elle représente assez bien l'esprit voltairien, il y a des gens qui ont décidé de faire un raccourci en disant que c'était une citation de Voltaire. Bon, peu importe, c'est un point de détail, c'est pas très intéressant. Mais oui, non, c'est cette très jolie phrase. Oui, si tu veux, on peut dire ça. Moi, je sais pas si je me battrais pour toi. Mais je considère que c'est important que les députés aient la possibilité d'exprimer leur point de vue. Et qu'ils puissent le faire librement. Et c'est pour ça aussi que je vous dis que moi, je suis pour l'immunité parlementaire. Je pense que c'est important que les députés puissent se sentir libres d'exprimer leurs opinions politiques et surtout de voter comme ils le veulent, sans craindre des répercussions immédiates du côté de la justice. Moi, je pense que c'est important. Je pense que c'est important. Je pense que les députés doivent être contrôlés dans ce qu'ils font. Je pense d'ailleurs qu'une bonne partie du contrôle doit être un autocontrôle de la part de l'Assemblée nationale elle-même. Je pense qu'il faut faire attention à l'utilisation de l'argent public par les députés eux-mêmes. Bon, aujourd'hui, il n'y a plus de réserve parlementaire, heureusement, mais c'est important que l'on puisse contrôler l'usage qui est fait par les députés de leurs indemnités de frais de mandat, leur allocation, enfin, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais l'argent qui sert à payer leurs frais de mandat. Oui, ça doit être contrôlé. D'ailleurs, ça l'est. C'est plutôt une bonne nouvelle. Par exemple, l'exclusion des deux députés, est-ce que ça te paraît proportionné? Moi, je pense, oui. Oui, je pense. Un député qui achète de la drogue avec l'argent de l'Assemblée nationale mérite une sanction. Après, il faut regarder ce qui existe comme sanction dans le règlement. Il faut que je retrouve dans le règlement de l'Assemblée. Où est-ce qu'on retrouve les sanctions d'ailleurs? C'est où? Ça, c'est la CGR, on s'en branle. Est-ce qu'on a une table des matières là-dedans? Admission des députés, invalidation, vacances, bureau de l'Assemblée, présidence de l'Assemblée, groupe, nomination personnelle, avis des commissions, commission spéciale, commission permanente, travaux en commission, conférence des présidents, tenue des séances plénières, mode de votation, discipline, immunité et déontologie. Alors, page 52. Alors, les peines disciplinaires applicables aux membres de l'Assemblée sont le rappel à l'ordre avec inscription au procès-verbal, la censure avec exclusion temporaire. Le rappel à l'ordre simple est prononcé par le président. Le rappel à l'ordre avec inscription au procès-verbal est prononcé par le bureau ou par le président seul. Dans ce cas, à la demande du député concerné, la procédure prévue à la ligne 4 est applicable. D'accord. Les peines prononcées par le bureau le sont sur proposition du président ou par écrit d'un député qui s'estime victime d'un agissement mentionné à l'article 70. Ok. Lorsque prononcée une peine autre qu'un appel à l'ordre simple, le bureau entend le député concerné ou, à la demande de ce dernier, l'un de ses collègues en son nom. La censure simple et la censure avec exclusion temporaire sont prononcées par l'Assemblée par avis et levé, par assis levé, ouais, et sans débat, sur proposition du bureau. Par dérogation de l'alinéa 1 et 2, le président du bureau, le président ne peut prononcer la peine dans le cas prévu de l'alinéa 7. Le rappel à l'ordre, avec inscription au procès-verbal, emporte de droit à la privation pendant un mois du quart de l'indemnité parlementaire allouée aux députés. Donc si vous êtes en séance, que vous êtes rappelé à l'ordre par le président de séance avec inscription au procès-verbal, vous perdez automatiquement un quart de votre indemnité parlementaire. Sur un mois. La censure simple emporte de droit la privation pendant un mois de la moitié de l'indemnité parlementaire allouée aux députés. Donc la censure, si vous êtes censuré, vous perdez la moitié de votre indemnité pendant un mois. La censure avec exclusion temporaire emporte de droit pendant deux mois la privation de la moitié de l'indemnité parlementaire allouée aux députés. Donc on passe à deux mois. Elle entraîne l'interdiction de prendre part aux travaux de l'Assemblée et de reparaître dans le palais de l'Assemblée jusqu'à l'expiration du 15e jour de séance qui suit celui où la peine est prononcée. Dans le cas où la censure avec exclusion temporaire est appliquée pour la deuxième fois à un député, l'exclusion s'étend à 30 jours de séance. Donc en cas de récidive, on passe à 30 jours d'exclusion. Je vais vous lire l'article 70, qui prévoit les cas dans lesquels tu peux être. Là, je vous ai décrit les peines qui existent. Donc, le rappel à l'ordre avec inscription au procès verbal, censure, censure avec exclusion temporaire. Les quatre peines disciplinaires qui existent. Mais pourquoi est-ce que vous pouvez faire l'objet d'une peine disciplinaire? Voilà la réponse. Peut faire l'objet de peines disciplinaires tout membre de l'Assemblée qui se livre à des manifestations troublant l'ordre ou qui provoque une scène tumultueuse, qui se livre à une mise en cause personnelle qui interpelle un autre député ou qui adresse à un ou plusieurs de ses collègues des injures, provocations ou menaces, qui fait appel à la violence en séance publique. Attention, hein. Qui s'est rendu coupable d'outrage ou de provocation envers l'Assemblée ou le président de l'Assemblée. Donc outrage ou provocation envers le président de l'Assemblée. Qui s'est rendu coupable d'injure, de provocation ou de menace envers le président de la République, le Premier ministre, les membres du gouvernement ou les assemblées prévues par la Constitution. Ainsi qu'envers le streamer Jean Massier. Ah oui, ça, oui, oui.
Oui.
Qui s'est rendu coupable d'une voie de fait dans l'enceinte de l'Assemblée. logique, à l'encontre duquel le bureau a conclu, en application de l'article 80-4, à un manquement aux règles définies par le code de déontologie. Bon, je vais m'arrêter là. Hein. Il est où le 80-4 ? Ouais, c'est les manquements à la déontologie. Bon, bref. Voilà, mesdames et messieurs, le règlement de l'Assemblée nationale. Donc, vous avez compris que les deux députés qui vont être sanctionnés cet après-midi vont être sanctionnés au maximum de la peine possible prévue par les textes, c'est-à-dire la censure avec exclusion temporaire. 15 jours d'exclusion plus la perte de la moitié de leur indemnité pendant 2 mois. Toum, toum, toum. C'est déjà fait, ils ont pris 2 mois à l'unanimité. Bon, bah voilà, c'est réglé. Ils peuvent plus voter les textes, du coup. Non, pendant 15 jours, ils n'ont plus accès à l'Assemblée nationale. Donc, ils ne peuvent plus participer au vote. Ah oui, pour ceux qui demandent, une voie de fait, c'est un acte de violence corporelle. Effectivement, pour ceux qui ne le savent pas, une voie de fait, c'est un acte de violence corporelle. Un député qui met une baffe à un autre député dans les couloirs de l'Assemblée se rend coupable d'une voie de fait dans l'enceinte de l'Assemblée nationale. Et il doit donc... Il peut donc faire l'objet d'une sanction décidée par le bureau. Un petit rappel, s'il te plaît, j'ai pas suivi l'histoire. Pardon, pour ceux qui n'ont pas suivi l'histoire, il y a 2 députés qui ont été sanctionnés aujourd'hui à l'Assemblée nationale parce qu'ils ont commis tous les deux des choses répréhensibles par le règlement de l'Assemblée. Le premier s'appelle M. Kerbrat, c'est un député de la France Insoumise. Il a été contrôlé en flagrant délit en train d'acheter de la drogue. Et on le soupçonne d'avoir acheté de la drogue avec l'argent de l'Assemblée nationale, qui est mis à disposition des députés pour couvrir leurs frais de mandat. Bon, le député nie cette partie-là, mais il a parfaitement reconnu avoir acheté de la drogue. Il a été pris en flagrant délit par un policier dans le métro en train d'acheter de la drogue. La deuxième députée, j'ai oublié son nom de famille, c'est une députée du Rassemblement national. Et elle, il lui est reproché d'avoir utilisé, pareil, l'argent de l'Assemblée nationale pour des frais, pour payer des trucs qui n'ont rien à voir avec son mandat de député. Elle a payé la garde de ses chiens, elle a payé une inscription sur un site de rencontre, et elle a payé des frais d'obsèques. Et c'est vrai que ça peut valoir très cher les frais d'obsèques, je sais bien, mais c'est pas pour ça qu'il faut utiliser ta carte bleue de l'Assemblée. Tous des pourris. Alors, je suis navré pour toi si, en m'entendant parler de 2 députés, tu en tires des conclusions sur 577 députés. Mais c'est le problème est de ton côté, pas du côté de l'Assemblée nationale. Ils détournent de la thune, on leur tape sur les doigts. On est vraiment un pays du tiers-monde. Alors, on n'est pas un pays du tiers-monde. Déjà, je trouve ça extrêmement méprisant de ta part pour les pays du tiers-monde. Petit fond de racisme, à mon avis. Ils détournent de la thune. Encore une fois, ce n'est vrai que pour la députée qui a utilisé sa carte bleue de l'Assemblée pour payer des frais qui n'ont rien à voir avec son mandat. Je précise, parce que j'aurais dû le faire, que la députée a remboursé l'intégralité des frais en question. La députée, c'est Madame Engrand. Voilà, merci beaucoup, c'est Madame Engrand. La députée du RN là, qui a utilisé la carte bleue pour des dépenses perso, en gros elle s'est gourée de carte bleue, je précise qu'elle a remboursé l'intégralité des frais. Donc je vois bien qu'il y en a dans le chat qui ont la tentation de considérer que l'intégralité des députés insoumis sont des cons sous prétexte qu'il y en a un qui a déconné. Je vous invite à faire preuve de mesure dans vos jugements. Non, un comportement déviant n'est pas représentatif à lui tout seul de l'intégralité de la classe politique, ni de l'intégralité des députés, ni de l'intégralité du groupe de députés. Ceci ne doit pas vous empêcher d'avoir des opinions sur les groupes en question, les députés en question et la classe politique, si vous voulez. Mais voilà quoi. Comment s'est fait choper la dame dans le métro aussi ? Non. J'en sais rien. Elle s'est fait choper probablement par le déontologue de l'Assemblée nationale ou dans le contrôle des frais de mandat. Il y a un contrôle qui est effectué au fur et à mesure des dépenses faites par les députés. C'est un contrôle comptable, hein, tu me diras. C'est pas très... Je me souviens d'ailleurs, c'était marrant, j'avais une députée que je connaissais qui habitait dans le 20e arrondissement, là où je travaillais. Elle s'appelait Fanélie Carré-Comte. Et Fanélie, elle m'avait dit que, en fait, elle avait hésité avec ses assistants parlementaires à acheter un scooter. Elle voulait acheter un scooter 50 cm3 avec l'argent de l'Assemblée nationale. Et son argument, c'était de dire qu'en fait, elle habite dans une circonscription qui est très très grande, mais qui reste dans une ville, donc elle peut parcourir l'intégralité de sa circonscription avec son scooter et elle peut se rendre plus facilement aux différents événements de sa circonscription. Mais surtout, elle peut rentrer beaucoup plus rapidement à l'Assemblée nationale pour voter des textes si elle est en scooter plutôt que si elle est en taxi. Et le troisième argument, c'était « ça coûte beaucoup moins cher. Il vaut mieux acheter un scooter et me permettre de l'utiliser pour me balader entre ma circo et l'Assemblée plutôt que de continuer à payer des taxis. » Parce qu'à ce rythme-là, il y a certaines semaines, elle prenait le taxi 4 fois par jour. Genre vraiment, c'était... Voilà. Mais évidemment, ça lui a été refusé. Ça lui a été refusé. Elle a dit non, il est hors de question que l'argent de l'Assemblée serve à acheter un scooter. Que vont en penser les Français, etc. Bon, ben voilà. Too bad. Donc elle a continué à prendre des taxis. C'est une question de perception par le grand public. Le scooter peut appartenir à l'Assemblée et servir pour les prochains. Ouais, elle avait proposé. Elle avait dit en vrai, moi le scooter, je vous le laisse. Hein. C'est pas pour mon plaisir personnel. Hein. C'est juste que j'ai tellement de trucs à faire dans la circo, à l'Assemblée et tout, et que c'est pas très loin. On est à quoi ? On est à 5 km. 5-6 km de l'Assemblée ? Bon. Donc c'est voilà, c'était raté. Mais c'est con, moi je trouvais ça bien. Je trouvais que c'était une bonne idée. Mais le grand public n'est pas prêt à accepter ce genre d'idée-là. Enfin franchement, vous imaginez le Canard Enchaîné qui aurait sorti un article expliquant qu'une députée s'est acheté un scooter. Vous imaginez les réactions, les jaseries, vous imaginez les blagounettes dans les matinales de radio, sur le plateau des Guignols. Pas possible. Déjà un président avec son scooter. Ah bah ça c'était autre chose, ça c'était un enjeu de sécurité pour le coup, le président de la République avec son scooter. Pourquoi faire des achats mais que ça reste pour le député de la circo? Ouais, elle aurait pu le louer, hein. Elle aurait pu le louer. Je pense qu'elle aurait pu louer un scooter, une location longue durée, tu vois. Ou un leasing. J'en sais rien, je sais pas. Je sais pas du tout. Donc ouais, non, c'est un exemple que je pouvais vous donner comme ça de questionnement sur les frais de mandat d'un député. J'en ai pas trop d'autres. Comparaison Navigo scooter qui gagne. Je sais pas, faut demander à Valérie Pécresse. C'est elle qui sait. Je vais y aller les copains, je vais me reposer cet après-midi. Je vous souhaite une bonne suite de semaine. Moi, je vais m'arrêter là pour cette semaine. Je reviendrai la semaine prochaine. Je vous rappelle que la semaine prochaine, il y a du lourd. Hein. La semaine prochaine, mardi, on a une annonce d'Emmanuel Macron. Il y a Euroguesseur sur la chaîne Twitch de d'Arte. Il y a Backseat. Il y a les auditions de François Bayrou pour Betaram. La semaine prochaine va être une grosse semaine sur ma chaîne Twitch. Donc, je vous invite à vous reposer d'ici là. Profitez bien. Merci de m'avoir accompagné, les copains. C'était chouette. Et je vous dis, amusez-vous bien à la semaine prochaine. Salut tout le monde. Ciao. Oui, non, il y aura peut-être du Flight Simulator ce week-end. C'est possible. C'est pas sûr, mais c'est possible. Je vous tiens au courant. Des bisous. À très bientôt. Ciao.